Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Qu'est-ce que la performance et quels sont les ingrédients de la performance? Nous en discutons dans cet épisode avec Laure. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire, après du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion ou championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Et bien entendu, je mets le lien dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de performance. Laure est sportive, enseignante agrégée de PS, de formation, désormais maître de conférence après une thèse doctorat spécialisée en psychologie du sport et de l'activité humaine. Elle développe surtout une approche holistique du monde du sport, de la performance, que ce soit pour le sportif de haut niveau ou un niveau plus amateur, mais toujours pour permettre à chacun de devenir meilleur et d'obtenir des performances à la hauteur de ses attentes personnelles. Autrement dit, Laure étudie tout ce qui nous permet de devenir champion ou championne du monde de notre monde. Dans cet épisode, nous allons discuter de ce qui fait la performance et de cette approche holistique. Nous avons bien entendu parlé d'entraînement, mais aussi de sommeil, d'alimentation, d'approche personnalisée d'entraînement et de la compréhension de tout ce qui fait que nous sommes plus que la juxtaposition de fonctions biologiques, biomécaniques et psychologiques. Sachez aussi que désormais, Laure reviendra chaque semaine dans le podcast dans un nouveau format d'épisode que j'ai appelé pour l'instant la Minute Perf, qui sera diffusé chaque début de semaine à partir de la semaine prochaine. Mais bien sûr, on vous en dit un petit peu plus dans cet épisode. Je vous invite donc à faire connaissance avec Laure et écouter notre discussion. Allez, c'est parti. Bonjour Laure.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais super bien. Je suis très heureuse d'être là. Je te remercie beaucoup.
Bon, on va le dire un petit peu parce que moi je te vois en direct, en vidéo. T'es un peu stressée quand même.
Non, c'est pas que je suis stressée, c'est que j'aime pas trop parler de moi et que voilà, mais je suis très contente d'être là, de pouvoir échanger avec toi à ce sujet qui me tient super à cœur. Donc c'est du bon stress, on va dire. Voilà, on pourra en parler d'ailleurs du bon stress.
Oui, on en parlera du bon stress, mais pas aujourd'hui. On en parlera une prochaine fois et on expliquera plus tard pourquoi. Aujourd'hui, on va plutôt parler. Alors, sur ma petite fiche, j'ai marqué approche holistique de la performance. Un sacré programme quand même.
Ouais, c'est peut-être qu'il faudrait revenir à l'origine de ce mot et peut-être qu'il faut que je te présente un petit peu mon parcours pour qu'on on puisse comprendre un peu où j'en suis venu pour en arriver jusqu'à ce mot un petit peu fou.
Exactement, parce que en plus, je vais te dire un truc, c'est que holistique, holisme et compagnie, j'ai déjà employé, on a déjà plein de gens qui l'ont employé, mais c'est vrai que avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a plein de gens en fait qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle de ça. Et donc on va expliquer un petit peu finalement comment on arrive à cette approche-là, et quel est ton parcours? Donc, tu as quelques secondes pour te présenter, mais prends le temps quand même.
Ouais, je vais essayer de prendre le temps parce que je pense que le fait de comprendre mon parcours, ça va permettre de vraiment comprendre ma démarche aujourd'hui, puisque je suis convaincue que la démarche qui est la mienne aujourd'hui, elle vient pas de nulle part et elle vient de toute cette conception que je me suis faite. Donc déjà, pour me présenter, donc moi je m'appelle Laure Candy. Aujourd'hui, mon statut, c'est d'être enseignant-chercheur à l'université ou maître de conférence, je vais expliquer ce que c'est. Et puis, j'ai aussi monté une boîte d'analyse de la performance, donc je vais expliquer tout ça. Mais pour comprendre un peu qui je suis, moi, je suis une sportive depuis que je suis toute petite. Je pratiquais le sport à bon niveau, toute petite, dans plein de sports, plein de formes de pratiques. Et finalement, j'ai pratiqué la natation, l'athlétisme, le trail, les raids multi-activités, le tennis. Et c'est ça, en fait, qui m'a toujours donné envie d'être dans le sport, de devenir, entre guillemets, éducatrice, d'éduquer au sport. Parce que depuis toute petite, bah, j'ai eu la chance de vivre dans des communautés sportives différentes et c'est ça qui m'a permis d'observer des choses et c'est ça qui est intéressant. Donc ensuite, bah, j'ai fait un parcours classique, j'ai fait une licence STAPS, normale. J'ai passé le CAPEPS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concours pour être professeur d'EPS. J'ai enseigné très peu en collège et en lycée pendant 4 ans et j'ai tout de suite eu envie de reprendre les études. Les études me manquaient déjà, donc j'ai commencé une thèse de doctorat en psychologie du sport. Donc je vais en discuter un petit peu. Et puis c'est cette thèse en fait qui m'a vraiment forgé cette conception holistique. Donc tout de suite, on peut peut-être définir l'holisme comme le fait de vouloir comprendre les choses dans leur totalité, dans leur globalité. Et donc de considérer que ben, nous, en tant qu'individu, on est un individu global et on n'est pas une somme de fonctions, quoi. Ensuite, donc j'ai fait ma thèse, j'ai fait un parcours un peu classique, je suis devenue maître de conférence. Donc pour être maître de conférence, ben, il faut globalement valider la thèse, demander une qualification avec un dossier, et voilà. En parallèle, j'avais passé l'agrégation d'EPS. Et donc toutes ces expériences, elles m'ont amené à vraiment analyser l'activité physique, essayer de comprendre l'activité physique, comment ça marche. Donc j'ai vraiment eu cette chance d'avoir une formation un peu scientifique et professionnelle sur l'activité physique. Et ça, pour moi, c'est très important au regard de choses qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui ou dans la réalité qui sont pas forcément toujours fondées. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc quel est le résultat de finalement tout ça? Parce que mon parcours, il est à la fois important et pas du tout. Ce qui est important, c'est ce que j'en fais aujourd'hui. Ce que j'en fais aujourd'hui, en fait, le but, c'est d'analyser la pratique physique des individus. C'est de permettre à tout le monde de devenir plus performant, de faire exactement ce que toi, tu dis, Bertrand, quand tu dis que tu es champion du monde de ton monde. Et ben, moi, je mets ça en place. Et la question que j'avais, les questions que je me suis posées, en fait, c'est de quoi on a besoin aujourd'hui dans le monde du sport? C'est-à-dire, de quoi on a besoin pour performer? De quoi on a besoin pour être meilleur pour nous-mêmes, par nous-mêmes? Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec tout ce qu'on connaît? Parce qu'on connaît beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'on utilise très très peu de connaissances qui sont malheureusement, enfin qui sont scientifiquement démontrées, et on les utilise très peu. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire en fait. Moi, j'essaye de me sentir un petit peu ce devoir d'éduquer et de me dire j'ai des connaissances, j'ai une formation qui est intéressante, et ben autant permettre à tout le monde d'en profiter et de pouvoir performer et de pouvoir devenir le champion du monde de son monde, quoi.
Ouais.
Voilà, pour faire un petit peu simple.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche holistique, on va l'opposer au réductionnisme qu'on connaît, dont j'en ai parlé dans l'alimentaire, parce que alors là, je renvoie sur l'épisode avec, dont j'ai perdu le prénom, mais Fardé, je suis en train de chercher
Anthony.
Anthony, voilà,
Anthony
Anthony
Fardé.
Fardé,
Ouais.
dont on a
Ouais,
parlé de
complètement.
réductionnisme alimentaire, et en fait, on peut dire que dans le sport, mais dans notre monde à nous, dans la productivité, dans le productivisme dans lequel nous vivons, nous avons un réductionnisme, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire, on prend des ingrédients. Alors, dans l'alimentaire, c'est je mange des protéines, et puis j'oublie ce qu'il y a à côté, et ça marche pas très bien. Et on pourrait dire que dans la performance, on pourrait ne regarder qu'un ingrédient, essayer de travailler que sur un ingrédient, au pif, hein, je cours et j'essaie de courir le plus vite possible, et en me disant, c'est comme ça que je deviens performant. Et l'idée, c'est de se dire que, ben, en fait, non, ça marche pas comme ça. On n'est pas comme ça, quoi.
C'est exactement ça, Bertrand. Je trouve que tu as très, très bien illustré le concept. Moi, j'aime beaucoup les travaux d'Anthony dont tu as parlé. Il est enseignant-chercheur aussi. Mais lui, plutôt en agroalimentaire et en chimie, je crois, des ingrédients. Et lui, il parle de matrice alimentaire. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la matrice, c'est ce qui fait qu'un tout est un tout. Et en fait, par exemple, un exemple très intéressant en nutrition qui parle bien, c'est qu'une compote de pommes n'est pas l'équivalent d'une pomme. Parce que quand on a une compote, on a cassé la matrice de la pomme, c'est-à-dire toutes les fibres, tout le jus, etc., etc. Ben nous, en tant qu'individu, on n'est pas la somme de fonctions psychologiques, biomécaniques, physiologiques. On n'est pas la somme de tout ça. On dépasse tout ça. On est un être vivant, complexe. Et c'est effectivement tout l'objet de mon approche, c'est de considérer que aujourd'hui, malheureusement, on accorde beaucoup trop d'importance aux fonctions physiologiques. Alors là, je vais surtout parler pour les sports d'endurance, d'ultra-endurance, comme la course à pied, le triathlon. Je pense que ça, c'est des sports qui concernent beaucoup de personnes actuellement. Et le fait, c'est que aujourd'hui, dans les plans d'entraînement, on survalorise la charge d'entraînement, on survalorise les aspects physiologiques, de contraintes mécaniques, au détriment de tout. Alors, je prends souvent des exemples, hein. Souvent, l'exemple, c'est quand tu es en club et que tu arrives le soir à l'entraînement et que le coach il te dit ce soir c'est 6 fois 1000 récup 2, et ben en fait quel que soit ton passé, ton histoire, rien que ta journée, en fait, tu as pu avoir une journée catastrophique avec une nuit catastrophique, et on te dit, bah, la séance, c'est ça. Et finalement, la séance, elle n'est pas tant adaptée. Alors, on va te dire, tu le cours à 80% de VMA, ou en l'occurrence, là, je ne sais plus quel exemple j'ai pris des 1000, moi, tu vas plutôt être à 90%, mais en moyenne, mais même si tu individualises avec la VMA, donc il y a une donnée chiffrée, tu n'individualises pas, en fait, avec des données beaucoup plus subjectives sur un état de forme du moment et un ressenti du moment. Et c'est exactement ce que tu décris, en fait. C'est que nous ne sommes pas la somme de fonctions, et donc nous ne sommes pas juste un plan d'entraînement, une nutrition, une gestion de prépa mentale. C'est bien plus compliqué que ça, en fait.
Et pour illustrer, hein, parce que je vais donner un exemple aussi, c'est ce matin, je discutais avec quelqu'un qui se reconnaîtra, et on parlait, il me disait, bah, quand il y a des grosses journées de travail, il monte l'équivalent de 80 étages d'escalier à pied, etc. Et il me disait, mais m'entraîner le soir, c'est juste, ça sert à rien. Enfin, je crois qu'il m'a dit ça. Hein. Il m'a dit, je l'ai fait, mais c'est pas agréable, je suis trop fatigué. Et c'est vrai que moi, entre m'entraîner le matin, m'entraîner le soir, j'ai beau avoir la même VMA théorique, j'ai beau être le même bonhomme, mon corps ne marche pas de la même manière.
Alors déjà, il y a ça, il y a le fait qu'il y a des individus qui sont plus sensibles à l'entraînement le matin et d'autres le soir. Il y a des gens qui sont clairement du soir, des gens qui sont clairement du matin. Ça ne s'explique pas, c'est un peu physiologique. Après, il y a la saison qui joue beaucoup. Hein. Souvent, l'été, on va avoir tendance à être plutôt du matin parce qu'il fait très chaud et que c'est compliqué d'aller s'entraîner le soir avec la chaleur. Et inversement, l'hiver, on va rarement sortir à 7 heures quand il fait très, très froid. Donc ça, c'est un petit peu individuel. Mais pour reprendre l'exemple de la personne qui se reconnaîtra et avec qui tu as discuté ce matin, en fait, ça rejoint un petit peu ce dont parlait le cardiologue que tu avais invité. Je crois que c'est Monsieur Carré.
François Carré, oui.
Qui avait François Carré, qui avait distingué l'inactivité physique de la sédentarité. J'avais trouvé ça très intéressant, et c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que la personne avec qui tu as discuté, elle est très active physiquement au quotidien, elle est pas sédentaire, mais enfin elle est pas sédentaire, et dans le même temps qu'elle est pas sédentaire, elle est active physiquement, parce qu'en fait elle doit avoir des fréquences cardiaques assez élevées au quotidien. Et donc l'entraînement, c'est quoi? L'entraînement, c'est juste l'élévation des fonctions cardiovasculaires, cardio-respiratoires. Donc si lui, il arrive avec un état de fatigue qui est déjà important, en fait, son entraînement, il sera forcément contre-productif parce qu'il ne pourra pas faire la qualité espérée. C'est un petit peu comme si on prend quelqu'un qui fait du surentraînement à son insu sans s'en rendre compte, qui a fait un footing la veille long, et puis le lendemain, il charge une séance. En fait, peut-être que la séance du lendemain, elle ne va pas passer parce que le footing de la veille, il était trop intense, trop long, il y avait une charge d'entraînement globale qui était trop importante. Donc, c'est un petit peu la même chose, en fait. C'est cette histoire de contrainte sur le corps. Et la question que moi, je me pose aujourd'hui et que j'essaye de mettre en place, c'est comment on arrive à redonner un petit peu plus de place à d'autres facteurs que la charge d'entraînement. Et d'ailleurs, je me souviens aussi dans un autre de tes podcasts, je crois que c'était Fabrice Kuhn, il me semble, de mémoire, qui disait que la différence entre un sportif amateur et un sportif professionnel, c'est que le sportif professionnel, il est payé pour se reposer. Et en fait, c'est tout à fait ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut réintégrer dans l'entraînement une place non négligeable au repos, à la récupération, mais à d'autres facteurs, bien entendu. Mais en l'occurrence, l'exemple que tu cites, c'est vraiment ça. C'est que cette personne, elle a besoin de récupérer, en fait, plus que de s'entraîner à ce moment-là, quoi.
Ouais, en plus, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, mais en plus, t'as besoin de dormir. Il me dit, non, mais je suis pas un gros dormeur et tout. Mais sur le sommeil, c'est un vaste sujet, le sommeil. Et je pense qu'on peut en reparler des heures et des heures, mais ceux qui sont intéressés par le sommeil, il y a un livre qui est super intéressant, c'est Pourquoi nous dormons, où dedans, il est très clairement expliqué que nous sommes tous en dette de sommeil, ou presque, mais qu'en fait, on est incapable de s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on peut se penser petit dormeur, mais en fait, on est juste sous-performant par rapport à ce qu'on pourrait être si on dormait plus.
Exactement, ouais. Mais ça, le sommeil, c'est a priori, je pense qu'on n'a pas encore tout connu et tout révélé du sommeil, mais il y a énormément de données qui sont en train de sortir là-dessus, et effectivement, on associe aussi, alors bien entendu, on pourra en reparler du spectre de la validité des données scientifiques tout à l'heure, mais on associe certaines études, alors des études que l'on appelle de corrélation, donc qui ne sont pas forcément, on n'a pas enfermé les gens en leur disant toi tu dors 7 heures, toi tu dors 10 heures, on ne peut pas faire ça. Malgré tout, on a corrélé des bas taux de sommeil à d'une part une plus faible immunité. Donc, c'est d'actualité, hein, plus de risques d'attraper des maladies que l'on connaît bien en ce moment. Et surtout, en fait, aussi à des maladies chroniques, malheureusement, comme le diabète, l'obésité, certains cancers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la nuit, on sécrète, c'est notre rythme circadien, hein, tout le monde connaît ça, et la nuit, on va sécréter des hormones qui sont nécessaires au jour. Et paradoxalement, la nuit, notamment au petit matin, donc, on sécrète des hormones qui vont être nécessaires à la régulation de l'appétit. Et donc, si on ne dort pas assez, et ben, en fait, on ne sécrète pas suffisamment de cette hormone qui va réguler notre appétit, donc on va plus manger. Et donc, on va rentrer dans un cercle vicieux, après, ce n'est pas du jour au lendemain, mais d'insulino-résistance, et donc d'obésité, de diabète de type 2, etc., etc.
Mais ce qui est intéressant sur le sommeil en plus, c'est que comme on ne sait pas à quoi il servait, il a été très très dévalorisé en disant bah, il ne sert à rien. Le capitalisme s'est vite empressé en plus de le remplir avec des Netflix, YouTube, TikTok et tout, tout le monde du spectacle et du divertissement qui finit de plus en plus tard. Hein. Je remercie encore ce week-end Amazon Prime d'avoir mis les matchs du dimanche soir à 20h45, le coup d'envoi. Parce que sans qu'il y paraisse, le petit quart d'heure à la fin, par rapport à des matchs qui commencent à 21h ou même plus tard, et il y a des pays où ça commence à 22h les matchs, hein. C'est l'Espagne, mais l'Espagne a un rythme de vie décalé, donc c'est encore différent. Mais c'est vrai que ces histoires-là, ça joue beaucoup. Et on commençait pas à quoi ça servait trop le sommeil, on s'est dit, bah, finalement, ça sert pas à grand-chose. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun animal, tous les êtres vivants, les mammifères, etc., dorment. Alors, avec une particularité, alors je ne sais pas si tu le savais, mais les dauphins ne dorment que de moitié. Bah, y a une moitié qui dort, l'autre moitié ne dort pas. Ils sont capables de faire ça. Mais même celui qui peut se faire bouffer pendant qu'il dort, dont l'homme en faisait partie à une époque, hein, d'ailleurs, dort. Donc, ça veut dire que quelque part, on en a besoin. C'est-à-dire que si on a autant besoin, si on dort autant, c'est qu'on en a vraiment besoin et que le corps a besoin de ces temps-là de repos.
Oui, alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu as commencé ton intervention par la question des réseaux sociaux et tout, et je pense que c'est important qu'on en discute, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux, alors c'est très bien, on est dans une société où on est hyper libre de penser, de communiquer, et je trouve ça génial, parce que vraiment, c'est ce qui fait que bah, notre société, elle est si intéressante. Mais l'effet négatif de tout ça, c'est que bah, notamment sur les réseaux, on trouve beaucoup de choses qui sont parfois complètement fausse. Et moi, c'est un petit peu la lutte dans laquelle je me suis engagée aujourd'hui en tant que chercheur et donc qui manipule des informations scientifiques. Et tu vois, bah, par exemple, moi, c'est pareil sur Instagram. Ça m'arrive de, comme on dit, de scroller un petit peu des comptes pour aller voir ce qui se fait, non pas pour suivre les informations, mais pour me rendre compte, en fait, de l'évolution des mentalités, etc. C'est un peu un travail anthropologique, hein, si on veut. Et l'autre jour, je suis tombée sur un compte de quelqu'un qui promeut le fait de dormir moins de 4 heures. Et il dit que lui, il est plus en forme avec moins de 4 heures, etc. Et c'est, entre guillemets, important et grave de le dire, parce que malgré tout, c'est un peu ça, le charlatanisme du 21e siècle. On n'est pas dans les dogmes, on en parlait au début, hein, d'ailleurs, de cette idée de dogme. Mais malgré tout, c'est faire passer des informations qui sont fondées sur absolument rien, bien au contraire, qui vont à l'encontre de toute théorie. Et je pense que c'est important d'avoir une approche non dogmatique. Je pense que c'est très important que tout le monde comprenne que finalement notre corps il a besoin d'équilibre, et si on parle aujourd'hui d'approche holistique et d'approche complémentaire, etc., c'est parce que notre corps il a besoin en fait de plein de choses équilibrées, et comme on dit toujours, hein, c'est la dose qui fait le poison, hein. Donc c'est pas tant le fait qu'il faut exclure ou inclure telle chose. Et après, il faut quand même aussi qu'on rassure tout le monde, là on est en train de stresser avec le sommeil, mais c'est pas parce qu'on va pas dormir pas beaucoup pendant une petite période, ou qu'on va pas dormir, on va faire une nuit blanche ou quoi, que c'est grave. Bien au contraire, là on parle tous les deux de sommeil chronique, de problèmes de sommeil chronique qui vont s'installer sur des années et des années, hein. Il faut bien se dire que aussi on a la possibilité de reprendre notre santé en main d'un jour à l'autre de notre vie et de redevenir en très bonne santé. On a quand même un corps qui est super bien fait, avec des capacités de restauration qui sont super importantes. Donc il faut quand même qu'on rappelle ça, que on parle bien de problématiques de sommeil sur le long terme, mais oui, le sommeil est une réelle problématique, quelque chose à inclure. Alors après, par rapport au sommeil, il y a la question de la sieste, dont on peut parler aussi. Mais là, pour le coup, il y a des théories assez divergentes sur la sieste. Il n'y a pas de consensus actuellement. Il semblerait qu'il y ait deux effets. À la fois, un effet soit très positif avec des micro-siestes de 15-20 minutes pour restaurer notamment les fonctions attentionnelles, cognitives, décisionnelles, etc., qui permettent en fait comme un petit peu de réamalgamer une capacité de décision pour la deuxième partie de la journée. Parce qu'en fait, à ce qui paraît, de ce qu'on comprend aujourd'hui du fonctionnement du cerveau, on se lève le matin avec un potentiel de décision. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien aller courir le matin, parce qu'une fois que c'est fait, ils n'ont plus à se dire dans leur tête « j'y vais pas, j'y vais pas ». Et en fait, plus la journée avance, moins on a la capacité à prendre une décision efficace et à trancher dans nos décisions. Donc la micro-sieste aurait notamment cette fonction sur l'attention, sur la capacité à décider. Et à l'inverse, par contre, les grandes siestes seraient des siestes énormément reconstructrices qui pourraient arriver quand on est vraiment en dette de sommeil marquée. C'est des siestes qu'on peut utiliser, mais avec parcimonie. Par exemple, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce type de sieste sur des week-ends où on est très très fatigué, où on a besoin vraiment de ce temps pour récupérer, parce que sinon on ne pourra pas récupérer. Mais il ne faut surtout pas envisager de faire des siestes longues trop souvent, parce qu'après le corps s'habitue et on dérègle justement notre cycle de sommeil. Il faut vraiment toujours avoir en tête que le corps, il aime l'équilibre, il aime la routine. Et s'il y a bien un conseil qu'on peut donner, c'est de se coucher toujours à la même heure, même le week-end. Ça, on le dit de plus en plus, hein, maintenant, que ce qui est bon en fait pour le corps, c'est les habitudes de vie. Manger à la même heure, se dormir à la même heure. Voilà. Mais c'est pas grave si on fait une nuit blanche, on a le droit de faire la fête aussi de temps en temps.
Ouais,
ou de faire ou de faire des 24 heures, par exemple.
Oui, voilà, et tout. Hein, et puis, tu sais, et sur la sieste, mais là où on voit aussi qu'il y a des. Quand tu parles de dogme, il faut te sortir des dogmes, parce que quelqu'un qui va faire un stage au Kenya, qui va voir les coureurs kényans, il va se rendre compte qu'en fait, ils font des grandes siestes. Mais comme tu dis, c'est une habitude. C'est-à-dire que ils doivent... Enfin, je crois que j'avais vu Kipchoge dormait entre 12 et 14 heures hein, à certains moments de sa préparation. Il a un volume d'entraînement alors qui est important en nombre de kilométrage, en plus à la vitesse à laquelle il le fait. Mais il court quand même assez doucement, un bon paquet du temps. Surtout relativement à sa vitesse de pointe. Mais c'est vrai que j'ai vu, hein, je ne sais plus quel champion, je crois que c'est Gressier, disait un jour, disait... qu'il avait vu des siestes de tout l'après-midi. En plus, il fait chaud, donc ils ne vont pas s'entraîner en plein milieu de l'après-midi. Et c'est aussi une habitude. Et c'est là aussi, ça fait partie des habitudes. C'est-à-dire que de dire, ils savent à quel point ils ont besoin du sommeil. D'ailleurs, on parle de repos hein, dans cette histoire-là. Mais pour ceux qui s'intéressent au sommeil, il n'y a pas que le repos. Il y a notamment aussi la mémorisation des gestes, mémorisation de ce qu'on a appris, des gestes techniques. Il y a énormément de choses. Les rêves servent à quelque chose. On ne sait pas encore à quoi tout à fait 100%, mais ça sert à des choses. Et donc, c'est vrai que dans les habitudes, je me rappelle les footballeurs professionnels me disaient, mais moi, je suis payé à faire la sieste l'après-midi. Et il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et ça, c'était après, ils n'étaient pas contrôlés, tu vois, c'est pas comme les équipes où on leur dit, il faut absolument s'enfermer et tout. Mais on se rend compte quand même qu'il y en a qui ont besoin peut-être plus que d'autres, c'est vrai, de ces moments-là. Moi, je sais que j'aime bien ma petite sieste. Là, tu vois, en enregistrement, c'est pas un jour de sieste aujourd'hui.
Et, c'est ma faute.
Non, c'est ta faute, mais bien sûr que c'est ta faute. C'est comme ça. Comment dire, j'ai anticipé quand même la nuit dernière, je me suis couché plus tôt. je le dis parce que et ça tu vas me dire tiens, alors c'est un truc intéressant. En ce moment, les jours raccourcissent quand même et moi je me pose en mode un peu hibernation, tu vois. J'ai décalé déjà mon heure de lever. Pour ceux qui le savent, ça fait des années que je me lève à 5h du matin, mais alors même sans réveil. Et ben depuis quelques temps, j'ai décalé un petit peu et je dis maintenant, si j'arrive à dormir jusqu'à 6h, 6h30, eh ben, je serai pas si mal que ça. Et petit à petit, tu vois, parce que je me rends compte que dans cette période-là, j'ai le sentiment, et tu vas me dire si c'est un sentiment, si ça peut venir du 24 heures de ce que je fais ou si c'est la nature qui est comme ça, que j'ai quand même besoin de plus dormir alors que les jours raccourcissent et qu'on arrive dans des périodes où, qui vont être plus fraîches, moins ensoleillées, etc.
Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit avant de parler vraiment de l'hibernation en tant que telle. On parlait de la sieste et je voudrais juste finir là-dessus. C'est qu'il faut quand même distinguer ce qui est de l'ordre du sportif de haut niveau de la personne, entre guillemets, normale. Je pense que c'est très important. Hein. Vraiment, c'est le but aussi de ma méthode, c'est de comprendre que mais justement, nous, en tant qu'individus qui travaillons, qui avons une vie normale, ben, on n'a pas les mêmes besoins qu'un sportif de haut niveau. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas les mêmes nécessité d'entraînement et de revoir en fait justement la manière de nous entraîner, donc peut-être de diminuer la charge d'entraînement. Les sportifs de haut niveau, ils ont vraiment besoin d'une sieste, comme tu dis, quotidienne, ou peut-être, après il y a des individus qui ont plus ou moins besoin de sommeil, hein. Je fais un gros clin d'œil à mes parents qui dorment comme des marmottes tout le temps et je pense que je tiens d'eux, mais il y a des gens qui ont pas du tout, qui ont moins besoin de sommeil, qui vont être beaucoup plus réveillés. Après, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que quand on a une grosse charge d'entraînement, en fait le corps il a besoin de restaurer, il a besoin de régénérer tout un tas de processus, hein, que ce soit simplement la reconstruction musculaire ou rien que ça, mais aussi l'entraînement pompe énormément d'énergie. Et notamment, on peut penser aux triathlètes ou même aux athlètes de haut niveau qui s'entraînent deux fois par jour. Ben, en fait, la sieste est un moyen de repartir à zéro, de faire un reset sur le plan de la fatigue musculaire et générale qui a été engendrée. Donc là, la sieste, elle est vraiment nécessaire. Ensuite, pour les gens un peu plus comme nous, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, la micro-sieste est nécessaire. Et après, je ne sais pas toi combien durent tes siestes, Bertrand, mais je pense que des siestes jusqu'à 30 minutes, 40 minutes, couchés les yeux fermés, ce n'est pas forcément un gros sommeil réparateur, mais simplement être dans le noir, fermer les yeux, Couper les écrans, couper les téléphones, couper les notifications, c'est déjà en fait super important. Et donc, on parle bien de deux types de siestes différents, dans le sens où on a eu deux sollicitations de niveau de contraintes différents. Après, la sieste, elle est aussi très intéressante pour des personnes qui commencent très tôt le matin, qui ont cette possibilité de dormir en début d'après-midi, ou les personnes qui travaillent sur les 3-8, on en parle en ce moment beaucoup, malheureusement, avec l'actualité au niveau des raffineries. Mais la sieste, ça permet ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a une vraie culture de la sieste et que, par exemple, on donne aux salariés la possibilité de dormir, et même, je crois, peut-être pas l'obligation, mais je crois que c'est une vraie culture. En gros, il y a plus de personnes qui font la sieste que de personnes qui ne font pas la sieste. Donc ça, c'était, voilà, je voulais terminer là-dessus, mais je pense que c'est important de bien distinguer les deux.
Sur l'histoire de la sieste, moi, si j'étais ministre de la Santé, je ferais comme les Japonais. C'est-à-dire que je dirais qu'il faudrait que tous les gens qui ont besoin d'une sieste puissent avoir un temps de sieste. Parce qu'en fait, nous sommes quand même des animaux plus ou moins polyphasiques, hein, si on peut le dire, et qu'on a besoin d'avoir ces temps de repos. Et que il y a des études qui ont montré hein, que ceux qui ont le petit coup de barre là, après le repas, là, bon, on peut dire qu'il y a l'alimentation qui joue, la fameuse fatigue postprandiale, etc., que l'alimentation n'aide pas. Hein, si vous avez mangé un gros bout de barbac avec une grosse plâtrée de nouilles à midi et à 14h, en général, ça tombe. Mais même si on ne fait pas ça, physiologiquement, on a une baisse d'énergie quand même dans ce moment-là de la journée. Et je trouve très sain, moi, tu vois, limite que les Japonais gardent cette habitude de faire la sieste, qu'il y a des pays qui gardent l'habitude de faire la sieste. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est qu'il a été démontré dans les fameuses Blue Zones. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est là où les zones qui produisent le plus de centenaires. Et je crois que c'est en Grèce où on leur a enlevé la sieste pour voir où la sieste a disparu petit à petit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait moins de centenaires depuis qu'ils font moins la sieste. Alors, il y a l'alimentation aussi qui joue, hein, parce qu'il y a une démarche holistique globale. Mais que, globalement, quand même, si ces pratiques de sieste étaient mises en place et tout, bah, c'était qu'on en avait aussi besoin. Et avec l'évolution, on s'est quand même rendu compte qu'on en avait un petit peu besoin. Moi, j'ai juste l'impression qu'il y a une espèce d'accélération sur le temps avec, maintenant qu'on a la lumière à tous les étages, je parle dans les maisons et pas dans notre tête, on a une tendance à dire on peut rester éveillé tout le temps, on n'a plus besoin de se caler sur le soleil, on n'a plus besoin d'avoir les... Alors qu'en fait, même l'histoire des LED qui sont bleus viennent tout perturber. C'est-à-dire que si on savait plus sur le sommeil, on n'aurait jamais fait des LED bleus. Moi, j'ai l'impression, les écrans bleus, on n'aurait jamais inventé des écrans bleus si on savait à quel point on a besoin de dormir et quel point ce bleu nous perturbe, parce qu'il correspond à des phases de réveil et pas des phases d'endormissement. C'est là aussi où... J'ai l'impression que la démarche, un petit peu, on va un petit peu à contresens de la technologie qui nous entoure. C'est comme si on se disait, peut-être il y a peut-être un truc qu'il faudrait qu'on revoie un peu différemment.
Alors, il y a des études hein, qui ont été menées là-dessus. On a enfermé des gens dans des grottes. Ça, pour le coup, c'est vrai. On a enfermé des personnes dans des grottes. Et en fait, le but, c'était de voir comment ils allaient fonctionner en toute obscurité, parce que du coup, il n'y avait pas du tout de lumière du jour, en fait. Et on s'est rendu compte au final que le rythme circadien s'est mis en place de manière très naturelle. Mais par rapport à ça et par rapport à ce que tu disais sur notre besoin de sommeil l'hiver, ça a été démontré en fait notamment dans un colloque à Lille par la Société française de recherche de médecine qui a démontré en fait que l'hiver, on avait biologiquement un besoin plus important de dormir. Dans le sens où en fait c'est dû à deux choses, c'est dû un à la baisse des températures parce qu'on reste malgré tout des mammifères et on a besoin d'avoir une température corporelle qui est proche de 37 degrés et aussi par rapport à la baisse de la luminosité parce que c'est la luminosité qui va régler notre fameux rythme circadien. Voilà. Donc ça c'est une réalité. Après pourquoi aussi l'été on est un peu plus réveillé tôt, alors peut-être nous en tant que sportifs on a aussi ce truc de se dire c'est le seul moment de la journée où on peut aller faire du sport, donc on a peut-être aussi dans notre tête ce petit truc qui nous réveille le matin. Moi je sais que l'été je loupe pas un matin de bonne heure, surtout quand je suis en vacances, aller courir au bord de la mer c'est quand même vraiment génial, c'est des moments précieux. Je sais que tu as fait pareil puisque j'écoutais dans certains de tes podcasts tes footings le matin.
Parti un jour où j'ai cru que le soleil se levait encore aussitôt qu'au mois de juillet, sauf qu'au mois d'août, il était feignant, hein, le gars.
Ouais, je me souviens de cette anecdote, ouais.
Donc, je me suis courir à courir de nuit sur la plage sans lumière et j'étais pas le seul. Hein. Je m'ai failli m'emplâtrer quelqu'un qui faisait la même chose. Donc, comme quoi, et non, mais je pense qu'on a plein d'habitudes à faire comme ça, mais c'est vrai que. On a plein d'habitudes et c'est vrai que là je me rends compte aussi parce que on disait courir là, tu le disais tout à l'heure, aller courir quand il fait nuit tous les matins, c'est quand même moins drôle.
Alors, c'est non seulement moins drôle, mais en plus, c'est plutôt contre-productif parce qu'il faut quand même se rappeler qu'une des dimensions de la performance, ça reste l'échauffement du corps, l'augmentation de la température corporelle, hein, qui est quand même une conséquence, une adaptation physiologique à l'exercice. Et le matin, il fait plus froid. Donc, qui dit plus froid dit un beaucoup plus longtemps d'échauffement. Et donc, si on ne respecte pas rien que ce petit indicateur de est-ce que mon corps est suffisamment chaud, bah, ça peut être un moyen de se blesser. Je voudrais juste rebondir, Bertrand, sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure. On parlait de tous les facteurs de la performance. Donc là, on parle beaucoup du sommeil. Mais tu as aussi parlé de l'alimentation par rapport à finalement ce petit coup de barre qu'on peut avoir en début d'après-midi. Et en fait, c'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est presque ton petit déjeuner du matin qui va faire que tu vas avoir ce coup de barre encore plus marqué. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, de l'alimentation IG bas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'IG, c'est l'index glycémique des aliments. Alors, on pourra peut-être en discuter plus tard, mais on peut peut-être en parler un tout petit peu
Ouais, on va le dire parce
simplement.
que pour ceux qui sont encore restés sur les sucres lents et les sucres rapides,
Ça ne
y a
dit
une
pas.
petite mise à jour. Il y a une mise à jour là-dessus. Et c'est vrai, non, mais c'est important de le préciser parce que même sur les réseaux sociaux, je l'ai vu il n'y a pas longtemps encore. Cette histoire de
Ouais.
sucre rapide, sucre lent. Et
C'est
toutes les
vrai.
discussions en famille avec des personnes qui ont 60, 70 ans, qui ont lu les bouquins de je sais pas quel nutritionniste dans les années 80, 90, ils sont encore à nous sortir, ouais, mais ça, c'est un sucre rapide, ça, c'est un sucre lent, mais t'inquiète pas et tout, tes pâtes, c'est des sucres. Ouais. Donc, tu fais bien d'en parler. On va redire ce que c'est que l'IG, parce que c'est important.
Il faut distinguer deux choses en fait. Il faut distinguer l'index glycémique de la charge glycémique d'un aliment. C'est super important. En gros, on a fait des études sur. En fait, l'index glycémique, c'est la capacité qu'a l'aliment à faire monter notre taux de sucre dans le sang. Et pour ça, on a pris une référence qui était le sucre blanc, le saccharose, le sucre de base. Et en fait, on a dit que ben voilà, ça c'était 100. En fait, en gros, la référence, c'est le sucre blanc égal à 100. Et en gros, on a comparé tous les aliments en termes de montée, de rapidité, de vitesse d'assimilation dans le sang par rapport au sucre blanc. Et donc, bah, c'est très facile, hein. Vous pouvez aller sur Internet, taper index glycémique des aliments, vous tombez sur des cotations, des tables, il y a plein de choses qui sont bien faites. Mais globalement, on distingue trois grandes catégories, les index glycémiques bas, moyens et élevés. En gros, pour faire simple, il y a quand même des petits trucs qui peuvent nous aiguiller. Plus l'aliment il est riche en fibres, celui, les pauvres, on parle des aliments qui contiennent du glucose, hein, parce que tout ce qui est 100% protéines, ça n'élève pas la glycémie puisqu'il n'y a pas de glucose. Donc tout ce qui est très riche en fibres, donc tout ce qui est fruits et légumes, même les légumineuses, en fait, d'emblée, c'est un index glycémique bas. Pourquoi? Parce que la fibre va ralentir l'absorption en fait du glucose dans le sang. Ça fait un petit peu comme si c'était un petit ami et ça permet de diffuser beaucoup plus lentement. Inverse, plus vous allez aller sur des aliments qui sont ultra transformés, qui sont cuits, qui sont prédigérés, voire dont la matrice a été énormément travaillée, donc des compotes, des jus, etc. Là, plus l'index glycémique va augmenter en fait. Et en fait, on a constaté que, alors, il faut un petit peu aussi remettre pareil des idées au clair. Ce n'est pas l'index glycémique qui va faire que l'on maigrit ou que l'on grossit. C'est simple, l'index glycémique va avoir un impact direct sur nos niveaux d'énergie et nos niveaux de satiété. C'est-à-dire que plus on va consommer des index glycémiques bas, plus on va avoir une énergie qui est stable, parce qu'en fait, dans notre corps, ça ne va pas faire les montagnes russes en termes de glycémie, parce que notre corps est super bien fait, hein, il n'y a pas de problème. Hein. On prend un aliment à index glycémique élevé, puisque le sucre dans le sang serait toxique en trop grande quantité, notre pancréas va libérer de l'insuline, et donc l'insuline va capter tout ça, va faire rentrer le sucre dans les selles, et il n'y a pas de problème. Le problème, il est quand, au bout d'un moment, on déshabitue notre corps, c'est comme tout à l'heure pour le sommeil, c'est pas grave de manger un donut, c'est pas grave de manger une tarte à la framboise, c'est pas grave de manger un petit plaisir sucré comme ça de temps en temps. Le problème, c'est de manière chronique, c'est quand on dérègle notre organisme et que petit à petit, on lui fait faire des montagnes russes en termes d'index glycémique. Donc ça, c'est la première chose, l'index glycémique. Et la deuxième chose, c'est la charge glycémique. La charge glycémique, en fait, c'est la quantité de glucose que l'on va ingérer en une bouchée. Donc en fait, on peut très bien manger un index glycémique très élevé, mais avec une charge glycémique très faible, dans le sens où je ne vais croquer qu'un petit bout de ma tarte à la framboise. Et là, au final, ma charge glycémique totale, elle ne sera pas si élevée. Je pourrais avoir une charge glycémique identique en consommant, je ne sais pas, 300 grammes de patates douces, parce que j'aurais mangé beaucoup plus de patates douces en termes de charge totale. Donc en fait, c'est vraiment la charge glycémique qu'il faut voir sur un repas. Et il ne faut pas bannir un aliment sous prétexte qu'il a un index glycémique élevé. Je pense que ça, c'est un vrai danger. Et puis c'est à nouveau une vision dogmatique. ça serait s'enfermer dans une vision où certains aliments sont meilleurs que d'autres, alors que c'est pas vrai. C'est, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc la charge glycémique me semble un indicateur beaucoup plus intéressant à prendre en compte. Et donc, le fameux petit coup de barre de l'après-midi, ben, c'est un peu dû, et surtout dû en fait, au petit déjeuner du matin. Aujourd'hui, on a vraiment compris que le matin, on était beaucoup plus sensible à l'insuline et qu'il était nécessaire de manger un petit déjeuner plutôt protéiné, gras, salé de préférence. Après, il y a des choses qui font vachement bien l'affaire, comme les porridges. Hein. Les flocons d'avoine, c'est très riche en protéines, il y a beaucoup de fibres, donc franchement, ça, c'est pas mal. Mais c'est le petit déj du matin, il est assez important. Donc, je pense que c'est important aussi qu'on comprenne que cette alimentation, elle est tout aussi importante dans le quotidien du sportif et dans cette logique de performance, parce que on voit bien que bah, si finalement on donne pas le bon carburant ou pas au bon moment à notre corps, bah, ça peut tout de suite engendrer des choses assez compliquées sur la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment, un des facteurs d'accès à la performance sur lesquels on peut énormément travailler, c'est l'alimentation. Le sommeil, c'est entre guillemets facile, c'est-à-dire on dort pas mal, on dort pas, enfin, on peut pas dire à corps dort bien ou dort mal. L'alimentation, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on entend beaucoup de choses et donc on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'il faut manger, quand il faut le manger, et notamment, voilà, c'est ce que tu expliquais avec l'idée des sucres lents ou des sucres rapides. Il y a des choses qui ont disparu, c'est-à-dire que l'actualisation des connaissances scientifiques est une vraie problématique dans le sens où ben, moi, j'ai toujours entendu mes grands-parents ou mes parents me dire « mange des pâtes avant ta course, c'est un sucre lent ». Et au final, on se rend compte que si les pâtes, elles sont trop cuites, ben, en fait, c'est comme du sucre blanc. J'ai oublié d'en parler aussi tout à l'heure. Ce qui va faire augmenter un index glycémique, c'est la cuisson, donc la transformation d'un aliment. Et donc ça me paraît vraiment important à considérer ici dans notre sujet du jour sur l'approche holistique de la performance. Je sais que pour avoir un petit peu vécu les différents Ironman un peu de près, discuter avec des personnes qui faisaient l'Ironman, me rendre compte qu'au final, ils n'ont pas des stratégies alimentaires très établies dans le sens où on leur a dit qu'il y avait certains types de gels, je ne vais pas citer de marque, qui ne faisaient pas trop monter la glycémie, donc bah, tiens, je vais prendre ça. Mais en fait, ces personnes-là n'ont pas réellement compris le lien entre la glycémie et l'effort. Alors que typiquement, sur l'effort, ce n'est pas si grave que ça d'avoir des, entre guillemets, des apports glycémiques très importants à un moment donné, puisque même si le but, bien entendu, l'idéal de l'idéal, c'est d'empêcher les fringales. Donc l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir des index glycémiques tout le temps bas. Mais ce qui est compliqué à l'effort, c'est de prévenir cette fringale. Et en fait, c'est très compliqué d'identifier. Et moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la question des repères intrinsèques, en fait, et de non plus être dans un, à nouveau, dans des visions dogmatiques ou des visions académiques, de dire, on entend souvent, il faut manger tant de grammes de glucose par heure d'effort. Mais au final, on est tous différents, on consomme tous de l'énergie de manière différente. Et c'est parce qu'on va écouter certains repères intrinsèques dans notre corps qu'on va apprendre à voir notre corps fonctionner, qu'on va être capable de se dire, là, j'ai pas besoin, mais je vais avoir besoin d'entendre tant. En fait, c'est apprendre à se connaître. Et c'est ça l'éducation, et c'est ça qui est très important, je pense. C'est d'être capable de... Mais c'est très dur, surtout aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, Strava, tous les moyens qu'on a pour se comparer aux autres. C'est très dur de se dire, bah, je vais faire ça parce que je pense que c'est bien pour moi. Et même si c'est peut-être en marge de ce que je vois sur les réseaux ou de ce que je vois sur Strava ou...
Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que je le fais parce que c'est bien pour moi et parce que je pense que c'est bien pour moi, que je le ressens comme ça. C'est un truc qui est vraiment super important parce que c'est vrai que quand on regarde, mais c'est valable pour, là tu parlais de l'alimentation, mais on pourrait parler aussi de la charge d'entraînement.
Tout à fait.
Combien j'ai entendu de personnes me dire « Oui, mais si tu cours tous les jours, tu vas te fatiguer, tu vas te casser, tu vas pas tenir longtemps et tout. » Et moi, je leur dis, ben oui, c'est bien pour moi. Mais après, je ne suis pas obligé. Et les gens qui regardent mon Strava, ils se rendront compte qu'aujourd'hui, je n'ai couru que 2,1 km en faisant de l'alternance course-marche. Et je ne suis pas allé faire 25 bornes tous les jours. Quoi,
hein. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qui est bien pour toi par rapport à quoi, en fait ? C'est ça le problème. C'est qu'on oublie aujourd'hui la question des objectifs. C'est-à-dire, on se compare pour se comparer et on ne se compare plus par rapport à un objectif identique. Et même pour un objectif identique, on peut pas se comparer. Donc, ce qui est bien pour toi, tu cours tous les jours parce que tu en as besoin, parce que physiologiquement et moralement et intellectuellement, tu as envie de courir et que c'est parfait pour toi. Après, si demain tu me dis, ben voilà, moi j'ai envie de faire un marathon, je vais te dire, oulala, Bertrand, il faut peut-être pas que tu cours tous les jours parce que ta journée de repos ou tes deux journées de repos ou trois journées de repos dans la semaine, elles seront peut-être nécessaires. Et donc, il faut toujours remettre cette histoire, et c'est moi, c'est vraiment là-dessus que je travaille. Qu'est-ce qui est bien pour moi par rapport à ce que je recherche. Parce que c'est toujours dans un objectif donné. Et pour ça, la seule manière de faire, c'est la question des repères. Parce qu'en fait, c'est la question de l'éducation, c'est d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est très compliqué, il faut du temps pour y arriver, il faut beaucoup pratiquer, et se connaître, c'est surtout pas se connaître par rapport aux autres. C'est vraiment essayer d'intérioriser des sensations, des émotions, des repères, qu'ils soient physiologiques, mentaux. On parle beaucoup des échelles de perception de performance, comme l'échelle de Borg, voilà, où on est capable de dire de 0 à 10, est-ce que l'effort il est pas du tout pénible ou très pénible. Ben, ça, moi, je pense que c'est une donnée qui est bien plus intéressante qu'une fréquence cardiaque qui est prise sur une montre où on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un biais énorme sur les fréquences cardiaques de nos cardiofréquencemètres. Donc, ça, c'est assez important. Et pour autant, je suis la première à ne pas le faire. Hein. Je suis la première à me dire, mais pourquoi je ne monte pas au cardio alors que je sens que l'effort, il est super pénible ? Parce qu'on est dans un monde où, finalement, on est formaté par, voilà, par des choses auxquelles on veut croire, des données objectives. Et tout l'enjeu de ma méthode, moi, c'est de remettre l'individu au centre, de remettre de la subjectivité au centre de cette objectivité. Et c'est parce qu'on va prendre chacun individuellement dans sa subjectivité, dans sa complexité, qu'on va arriver à vraiment performer et vraiment amener cette performance. On parle de performance depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas, on n'a pas défini le concept.
Non, mais on va le définir après. Mais tu vois, je veux revenir sur l'histoire du cardio parce que ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé ce week-end. Un truc qui est intéressant. Donc ce week-end, je cours 13 km. Enfin, il était annoncé à 13, mais en fait, il fait 12. Et au début, ça part vite. Mais que ça part vite. Enfin, par rapport à ma vitesse de 24 heures, j'ai l'impression de courir deux fois plus vite. Et pourtant, tu sais, moi, je regarde ma montre et je regarde la vitesse, le cardio qui montait. Je me suis dit, mais il n'est pas si haut que ça. Mais la sensation n'était pas agréable quand même. Mais il n'était pas si haut que ça sur l'instant, tu vois, comme ça. C'est pas comme si c'était mis à clignoter en disant « Ouais, attention, t'es en train de péter, là, t'es dans les 5-10% qui te restent de marge, etc. » Il n'était pas si haut que ça. Et là où j'étais étonné en plus, c'est que je me suis dit « Bon, est-ce que je vais ralentir un peu ?» quand même, je voudrais bien suivre ce qu'il y a devant et tout. Et j'ai décidé de ne pas en tenir compte. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de suivre les 2-3 qui y a devant. Il y en a un qui a l'air sympa. Il y en a un qui connaissait mon prénom. Coucou Fabrice, au passage. S'il réécoute cet épisode et tout. Et sur l'instant, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est ma montre qui est foireuse? Ou est-ce que c'est ma perception que j'ai de la donnée qui est sur ma montre, qui était pas bonne, tu sais, qu'à ce moment donné, en fait, c'est-à-dire que sur la course, sur ce que je voulais faire, c'était pas la donnée qui était intéressante à afficher.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment une des problématiques sur lesquelles je me concentre en ce moment. Moi je pense que c'est les deux en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait, hein, tu vas sur n'importe quel blog aujourd'hui sur les sites Garmin, sur Cité de Montres, Suunto, tous les sites de montres, tout le monde dit que les montres, il y a un biais énorme. Donc aujourd'hui globalement toutes les montres ont un capteur de fréquence cardiaque au poignet. Bon, c'est pas fiable dans le sens où en fait ça mesure le transport d'oxygène dans la petite veine du poignet. Donc ça veut dire que si on n'est pas dans une action qui va faire travailler l'avant-bras, bah en fait on va avoir moins de volume d'oxygène qui va être envoyé sur ses muscles parce qu'il faut quand même se rappeler la physiologie de l'effort. Le corps il envoie de l'oxygène et du sang là où il en a besoin. Donc nous en tant que coureur ou en tant que cycliste, globalement le cœur emmène du sang vers les jambes. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a des problèmes parfois d'intestin etc, parce que nos intestins se vident de tout sang et donc ils peuvent pas fonctionner pendant un petit moment, et c'est après l'effort se regorger de sang où on a des soucis. Donc ces capteurs au poignet, c'est pas très fiable. Après il y a les ceintures, là c'est pareil, on est sur un autre problème. Les ceintures au niveau du cœur, donc elles sont beaucoup plus fiables, clairement, mais j'ai bien dit beaucoup plus, j'ai pas dit elles sont fiables à 100%. La problématique, c'est que vous, les hommes, vous allez pouvoir les utiliser beaucoup plus facilement que nous, les femmes, parce que ben, clairement, notre morphologie et le fait de porter des brassières, ben, ça vient souvent compresser à cet endroit-là, et c'est compliqué pour nous, en tant que femmes, de porter ce type de ceinture. La seule donnée aujourd'hui physiologique que l'on peut avoir de très, très fiable, c'est les tests d'effort, avec les tests de VO2, et là on a vraiment le débit ventilatoire avec la capacité ventilatoire, et là on a vraiment des données importantes. Mais clairement aujourd'hui, que ce soit les capteurs de puissance en vélo ou ce genre d'outils, ne nous apportent pas une donnée fiable. En fait, moi la démarche que je prône, c'est de dire il faut arriver à partir de ces outils comme des moyens de mettre des indicateurs chiffrés sur des données subjectives. C'est-à-dire que peut-être que ce matin-là, on voit aussi avec nos montres, hein, quand le GPS n'est pas prêt, parfois le débloque complètement en termes d'allure, etc. Quand il fait un peu couvert ou qu'il y a un peu de brume, c'est pareil, le GPS, il a du mal à capter, donc les allures ne sont pas bonnes, etc. Et en fait, le but, c'est d'associer des signes, des repères intrinsèques sur soi avec ces fameux repères extrinsèques. Et il y a aussi, c'est encore plus compliqué, c'est que par exemple, quand on est en surentraînement, on va avoir tendance à avoir soit une fréquence cardiaque plus élevée, soit une fréquence cardiaque qui a du mal à monter. Donc peut-être que toi, bah voilà, tu as quand même vécu quelque chose de traumatisant pour ton corps avec ton 24 heures, c'est pas rien l'épreuve que tu as faite. Et donc peut-être que dimanche dernier, c'était simplement aussi ça, ta fréquence cardiaque est moins montée pour des raisons de fatigue physiologique, d'épuisement un petit peu des ressources aussi. C'était peut-être tôt. Pour ton corps, il t'a peut-être fait un petit signe en disant tu vas pas nous remettre ça tout de suite. Voilà, c'est peut-être des petits indicateurs à prendre en compte. Peut-être qu'il a eu peur au début de la course de repartir sur un 24 heures, tout simplement.
Mais je lui ai parlé, et attends, je lui ai parlé à mon corps, et je lui ai dit, attendez, et le gars, mon gars, là, on part que pour 1h12, hein, je lui ai dit, enfin, non, oui, je lui ai dit 1h15, je lui ai dit, finalement, ça fait 1h08, tu vois, et c'est vrai, ah non, mince, j'allais dire, j'ai fait moins travailler, mais en fait, j'ai fait travailler plus fort.
Voilà, tu étais sur des intensités différentes et du coup, donc voilà. Mais vraiment, ce qui est important, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître, d'identifier des repères. Donc, il y en a plein des repères. Hein. Tu as parlé de la fréquence cardiaque, c'en est un. Il y a la capacité à tenir une conversation. Globalement, on distingue, nous, en course à pied, on distingue, allez, on va dire, trois grandes allures. On va parler de l'endurance fondamentale, c'est vraiment une allure dans laquelle on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger, on va pouvoir tenir une conversation sans problème. On est un petit peu essoufflé, mais ça va, on a toutes nos capacités de réflexion, d'analyse. Globalement, c'est le blabla footing, c'est le footing, je ne sais plus comment tu appelles ça, c'est le blabla run,
Le
voilà.
blaron, ouais.
C'est ça, c'est le truc vraiment où on a une aisance respiratoire totale. Concrètement, dans ce type d'effort, il n'y a pas de facteur limitant à part une fatigue musculaire qui va s'instaurer au bout de 2 heures et 2 heures de... Voilà. Et clairement, ici, le substrat énergétique majoritaire, c'est les lipides, c'est nos réserves de lipides. Et donc, il n'y a pas a priori de problème. Et en fait, on voit bien que chaque allure, elle va être associée à un facteur limitant. Et c'est ce facteur limitant qui va entraîner, en fait, ces fameuses sensations plus ou moins désagréables. Donc après, on a l'allure entre guillemets entre le seuil aérobie et le seuil anaérobie, qui sont des allures un peu qu'on pourrait appeler, par exemple, l'allure marathon, semi-marathon, tout ça. C'est un peu ces allures-là. Donc là, c'est des allures dans lesquelles on ne peut plus tenir une conversation. On ne peut pas tenir une conversation de A à Z. On va pouvoir lancer des morceaux de phrases, des phrases, mais il va y avoir une pénibilité qui va s'instaurer. Et ici, le facteur limitant, alors selon l'intensité dans laquelle on se situe, je ne vais pas rentrer trop dans un niveau de détail, mais c'est l'acidose progressive du muscle, parce qu'en fait, on va rebasculer petit à petit majoritairement dans un aspect anaérobie lactique. Donc, on va en fait, tout le lactate, tout le pyruvate ne peut plus rentrer dans le cycle de Krebs, pour faire simple, et donc ça va se transformer quand même petit à petit en lactate, et donc il va y avoir une forme d'acidose musculaire qui est la même que les coureurs de 400 qu'on voit à la télé, sauf que c'est très progressif et on est sur des effets de seuil. Donc là, ici, le facteur limitant, ça va être ça va être cette acidose-là. Et donc, typiquement, à ces allures-là, la pénibilité de l'effort, c'est un petit peu des sensations de brûlure, c'est un petit peu des sensations de picotement qui sont dues à ça. Et enfin, il y a une troisième allure qu'on connaît tous, qui est la VMA, qui sont les allures de VMA, où là, on est à intensité maximale. Et là, clairement, on ne peut pas parler. On est très, très essoufflé. En général, quand on termine une VMA, on a envie de s'écrouler, on ne tient pas sur nos jambes, ou alors on a les mains sur les genoux, on est très rouge, il y a une grosse vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins du visage. Et là, clairement, le facteur limitant à VMA, c'est le volume maximal d'oxygène, c'est-à-dire que pour augmenter notre VMA, il faut augmenter nos fonctions cardio-respiratoires. Et ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants de se connaître, parce que ça veut dire que typiquement, si on part en footing et qu'on est déjà trop essoufflé, je pense notamment à des gens qui se remettent à courir, qui vont courir une fois par semaine ou 2 fois par semaine le dimanche, et qui sont déjà dans des allures, les allures 2 et 3 dont j'ai parlé, ce n'est pas des bonnes allures en fait. Il faut vraiment arriver à être sur ces allures. Hein. Et typiquement, l'alternance course-marche que tu valorises, je suis archi fan, parce que c'est ça qui permet de redescendre la fréquence cardiaque et qui permet de rester dans ces fameuses allures basses.
Et il faut le dire aussi, et je le redis parce que moi je l'ai vécu en club, ceux qui courent en club, qui découvrent la course de club et qui se rendent compte que des fois il y a des meneurs d'allure à l'échauffement, ils s'échauffent eux à leur vitesse qui est peut-être confortable pour eux, mais des fois dans le groupe, ça traîne un petit peu. Et moi je sais que dans mon club, à la fin, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des groupes différents à l'échauffement qui partaient pas à la même vitesse, tout simplement parce que Moi, j'avais l'impression d'être dans ma séance de seuil, alors qu'on est en échauffement. Et puis, je regardais ma montre, je disais, mais je suis vraiment dans une vitesse qui n'est pas une vitesse d'échauffement. Et j'ai discuté avec des entraîneurs de club. On en a parlé avec Fred Bellouz aussi, en disant, il y a des entraîneurs de club qui disent, l'échauffement ne doit pas être à plus de 10 km/h, ou même, un qui a dit 9 km/h, carrément, qu'il est limité, alors qu'il y a des chevaux de course dans son truc, hein. Il y a des gens qui courent bien plus vite. Mais en disant, à un moment donné, si pour vraiment s'échauffer, le but de s'échauffer, c'est vraiment, comme tu disais, c'est de faire monter la température globale du corps, le préparer à l'effort. C'est pas d'anticiper l'effort et de griller les cartouches énergétiques, etc., trop tôt non plus. Il faut.
Mais tu vois, là, Bertrand, tu remets une dimension objective et identique. C'est-à-dire que tu nous dis, l'entraîneur dit, il faut pas courir à plus de 10. Mais finalement.
Ouais.
Ça ne veut strictement rien dire, en fait, parce qu'il faut vraiment que cette allure d'échauffement, elle soit corrélée à un pourcentage de VMA. Et ce pourcentage de VMA, il est individuel. Et je vais aller même plus loin. Cette allure d'échauffement, elle doit être corrélée à un niveau de fatigue, elle doit être corrélée même à un niveau de stress, à un niveau de fatigue à un moment donné. Mmh. Parce que, concrètement, tu peux avoir une VMA à 17, mais moi, je vois quand je suis en prépa marathon, le lendemain d'une sortie longue, clairement, mon corps, il a vachement plus besoin de récupérer. Donc, je cours beaucoup plus lentement et ma fréquence cardiaque va beaucoup plus monter facilement. Donc, ce niveau d'échauffement, en fait, c'est ça. Quand on parle d'individualisation et quand on parle d'approche holistique, c'est complètement ça. Strictement, courir à 10 km/h, ça veut rien dire. Parce que entre un individu qui a une VMA à 20 et un individu qui a une VMA à 14, dans un cas, ça va représenter 50% de sa VMA et dans l'autre cas, ça va représenter 75 ou 80% de VMA. Je suis pas très bonne en maths. Mais voilà, vous avez compris, quoi.
Mais les gens ont du mal à entendre cette histoire parce que j'ai fait une vidéo sur Kipchoge et j'ai dit que Kipchoge il s'entraîne à justement à l'échauffement, il a dit ça à 10 à l'heure. Rappelons quand même que Kipchoge court le marathon en 2 heures, donc il a une VMA qui est beaucoup plus haute. Et j'ai dit, imaginons si nous avec notre VMA nous on reprenait ça et qu'on court à 50% de notre vitesse maximum, l'échauffement serait très lent. Et il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, me dit, ouais, mais pour nous ça marche pas parce que ça nous ferait marcher.
Et mais c'est ce qu'il faut.
Mais c'est ça le truc.
C'est pour ça que ta méthode de dire quand on reprend la course à pied, il faut alterner marche-course. Moi, je sais que j'ai permis à des personnes de réapprendre à courir ou d'apprendre à courir avec cette fractionnée. Prenons l'exemple du fractionné. Quand un individu qui a une VMA à 20 va faire du fractionné, on va calculer des pourcentages de VMA en termes de. Le fractionné, il va être à 110% de VMA, donc il va être à temps. Et puis la récup, elle est en récup. Quelqu'un qui apprend à courir, on peut tout simplement envisager que le fractionné, c'est je cours, je marche. Parce que la marche, c'est sa récup. Et la course, si elle est à 8 km/h au début, c'est très bien, en fait. Parce que clairement, quand on reprend la course ou qu'on n'a jamais couru, globalement, c'est rare d'avoir une VMA à plus de 10 ou 12 km/h. Enfin, on a des petites VMA, ce qui est tout à fait normal, puisque l'augmentation du volume respiratoire est due à l'entraînement. Donc, c'est tout à fait normal. Et oui, au contraire, mais en fait, une nouvelle fois, on est dans une logique académique, on est dans des conceptions qui sont préformatées. Et aussi, c'est quelque chose d'important, c'est qu'on a cette culture de haut niveau, c'est-à-dire que malheureusement, et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, on veut trop appliquer ce qu'on voit à la télé dans notre quotidien, tout comme les personnes qui préparent un Ironman de niveau entre guillemets normal, qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, vont faire des charges d'entraînement à 20 ou 25 heures par semaine, alors que c'est pas ce dont ils auraient besoin. Ils auraient besoin de faire beaucoup plus de qualité, peut-être beaucoup plus de techniques de nage, de techniques de course, de placement sur le vélo, de choses qui pourraient optimiser leur performance et diminuer la charge d'entraînement, parce qu'à un moment donné, le corps, c'est pas une machine. Le corps, il peut pas encaisser des charges et des charges d'entraînement. Donc oui, quelqu'un qui a une VMA à 10 ou à 12 et qui reprend la course, qu'on se mette bien OK, c'est pas de problème de marcher et de courir, de faire du fractionné marche-course pour réapprendre à courir et d'augmenter progressivement ce fractionné. C'est tout à fait OK et c'est comme ça qu'on va arriver à des allures. Parce qu'une nouvelle fois, l'objectif de ces allures, c'est de travailler différents processus physiologiques dans le corps. Et quand on est en endurance fondamentale, on ne travaille pas du tout les mêmes processus physiologiques que quand on est à VMA ou quand on est au seuil anaérobie lactique. Parce qu'on n'est pas du tout sur... C'est compliqué, après, c'est de la physiologie, mais dans un cas, on va travailler vraiment le réservoir. Dans l'autre cas, on va vraiment travailler plutôt le débit dans chacune des filières. Et chaque filière, une filière, c'est quoi? C'est globalement la manière avec laquelle le corps va resynthétiser de l'ATP. Donc... Tout ça, c'est vraiment important et il faut sortir de cette idée que courir, c'est pas juste courir, on met des baskets et on court, quoi. Il y a vraiment des allures à respecter et c'est très intéressant, au contraire, tout ça, parce que ça permet aussi de déculpabiliser, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on culpabilise de pas faire comme on voit sur les réseaux. Mais il faut quand même pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux, déjà, c'est 2% de la vraie vie, des gens, et on ne voit que des gens que l'on suit par groupe affinitaire. Donc en fait, on voit vraiment très, c'est pas la réalité, quoi. C'est un spectre très très restreint de la réalité, et malgré tout, cette idée de comparaison, elle est permanente. Mais c'est pour ça que moi, quand je reviens à ma définition de la performance, c'est vraiment une définition personnelle d'accomplir quelque chose qu'on n'a jamais accompli pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Parce que voilà, clairement, moi je prends toujours cet exemple, hein. Nous, en tant que sportifs entre guillemets amateurs, on n'est pas là pour avoir la médaille d'or au championnat du monde, au championnat olympique. Alors que Kipchoge, lui, bah, par exemple, je ne sais pas, il fera peut-être le marathon Paris 2024, mais vu le dénivelé qu'il y a dans ce marathon, il ne va pas chercher un chrono. Il va chercher, en fait, à faire une course tactique qui va lui permettre de... Donc, on voit bien qu'ici, on est sur une référence extrinsèque, on est sur une logique de comparaison, bien sûr. Mais nous, à notre propre niveau, notre objectif, souvent, c'est de battre notre record. Je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui fait 2h31 au marathon. Un homme qui fait 2h31 au marathon. Si on reprend les... Je me suis amusée à regarder les cotations à FFA. Ben, 2h31, pardon, ça c'est quand même un très beau temps déjà. Tout le monde ne fait pas ça. Et ben, ce n'est que, avec des gros guillemets, un niveau interrégional 4. Donc, ça veut dire que pour être... interrégional 1, pardon. Ça veut dire que pour passer niveau national 4, il faut faire 2h28. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que cette personne, clairement, elle n'est pas dans une logique de comparaison, parce que là, avec ce temps-là, je ne sais pas... elle se met sur le marathon de Paris, elle finit, je sais pas, peut-être dans les 100 ou 200 ou 300 personnes, et donc pour elle, finir 268e ou 257e, ça revient au même. Par contre, cette personne-là, elle a vraiment envie de battre son record pour passer cette barre symbolique que sont les 2h30. Donc on voit bien que la performance, elle est intrinsèque, elle est propre à soi et avec un référentiel individuel, quoi. On en revient à cette idée de se focaliser sur soi, sur ses propres repères, et aussi sur un truc qu'on oublie tout le temps, c'est ses ressources et ses contraintes. Parce qu'on a des vies, on travaille, on a des enfants, on a un mari, on a des choses à faire au quotidien, on a des amis à voir le week-end et on a le droit de faire des sorties. Et c'est OK tout ça. Et on n'est pas des sportifs de haut niveau pour cette raison, où on ne fait pas des sacrifices dans nos vies personnelles, comme le font les sportifs de haut niveau qui vivent un peu en autarcie, en bulle, qui partent faire des stages et qui s'isolent. D'ailleurs, ils le disent souvent, hein, qu'ils ont été privés de leur famille, qu'ils font des sacrifices au niveau de l'alimentation, etc., etc. Nous, c'est pas ça. Et en fait, nous, notre but, c'est d'être performant tout en gardant un niveau de vie très acceptable et très, très chouette, quoi. Le but, c'est quand même de profiter de la vie en ayant notre sport en plus et d'être le plus performant possible dans notre sport.
Ouais, et tu sais quand même, ça m'a fait tilter un truc, quelqu'un qui fait 2h31 au marathon, maintenant, s'il avait une machine pour rentrer dans le futur, eh ben, il serait champion olympique dans plein d'années. Il y a plein d'années, c'est ça qui montre aussi l'évolution de la performance et la relativisation de la performance qui est intéressant. C'est que tu regardes, il y a plein d'années où on remonte, où il y a des marathons olympiques, hein, qui ont été gagnés. Par exemple, Alain Mimoun a été champion olympique en 2h25. Alors, il fallait voir la chaleur qu'il y avait cette année-là. Hein. Il y avait plein de contraintes, etc. Mais c'est vrai que à l'époque, on regarde, il y a un marathon en 3h28, hein, je crois, en 1904, qui est souvent pris comme référence, mais qui est un marathon qui est très lent cette année-là. Mais quand on regarde la performance dans l'évolution, dans les choses, il y en a qui se disent, tu n'es peut-être pas venu à la bonne époque, à la bonne période, parce que mon super temps sur marathon, à une époque, j'aurais été champion. Mais enfin, j'ai envie de dire, c'est pas comparable. C'est tout. Tellement de choses ont évolué que même la notion de performance, elle a tellement évolué.
Tu le dis, Bertrand, tellement de choses ont évolué. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu, c'est de comprendre que tout évolue. Et c'est pas juste les plans d'entraînement, c'est pas juste la charge physiologique. Si on était qu'un individu qui physiologiquement pouvait encaisser des charges aujourd'hui plus importantes qu'avant, c'est pas vrai. On a justement progressé parce que petit à petit, on s'est rendu compte que oui, l'alimentation, le sommeil, la récupération, tout un tas de facteurs sont nécessaires. La préparation mentale. C'est quand même super important de se dire que bah, gérer un marathon, on va avoir des coups de mou. Et si au départ, on part dans cette logique que oui, il y a des moments où ça va être dur, et ben en fait, on affronte beaucoup mieux ces moments. Alors, il faudrait travailler, il y a d'autres choses à faire, hein, mais Voilà, donc il y a tout un tas de facteurs qui font que sur lesquels on a progressé scientifiquement, qui ont permis de faire évoluer ces chronos. Et tout récemment, on a quand même des exemples très concrets qui démontrent que ce n'est pas que l'aspect physiologique, notamment avec l'évolution des matériaux. Alors, il y a un exemple qui est, moi, je trouve flagrant en natation. Quand on a mis les combis en polyuréthane, on a fait péter tous les records du monde. Et puis après, on a dit, ah non, non, alors on supprime les combis, mais par contre, on garde les records. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Et puis récemment, avec les plaques de carbone dans les chaussures. Alors après, on s'interroge sur la question du dopage technologique. Est-ce que jusqu'où ça va, en fait, jusqu'où on peut tolérer l'évolution du matériel pour que ça ne soit pas considéré comme une forme de dopage et donc comme une forme de, d'aide qui serait très artificielle et qui n'est pas naturelle. Donc ça, c'est très intéressant. Mais à nouveau, ta réflexion, Bertrand, nous permet de comprendre que oui, nous ne sommes pas qu'une unité physiologique et que c'est bien parce qu'on s'interroge sur tout un tas de facteurs qu'on évolue, qu'on progresse. Alors après, il y a énormément de choses qui ont progressé aussi en athlée. Voilà, rien que le matériel. Effectivement, les chaussures ont évolué sans mettre des plaques de carbone. Nos chaussures aujourd'hui ne sont pas celles qu'avait Alain Mimoun lorsqu'il a fait son record. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est cette idée de se dire comment on envisage l'approche holistique de la performance et comment on envisage de prendre en compte tous ces facteurs, en fait. C'est ça qui est chouette. Et ce qui est très intéressant, c'est de l'individualiser. C'est de se dire qu'est-ce qui, pour moi, va avoir de l'importance à un moment donné. Moi, j'ai jamais entendu un athlète me dire aujourd'hui, je ferai pas la séance parce que je suis fatigué. Jamais un athlète ne va pas le dire. Ça va être un coach qui va dire à son athlète aujourd'hui. Et ça, c'est un bon coach. Parce que aujourd'hui, on va considérer que la séance prime sur tout les autres facteurs. Mais à un moment donné, si j'arrive un soir à l'entraînement, que j'ai super mal dormi, que j'ai pas mangé de la journée, que je suis hyper stressée, je prends la caricature, clairement, la question, c'est est-ce que la séance, elle va pas être contre-productive ? Parce que oui, on peut être dans une contre-productive aussi. Et parfois, le sommeil est peut-être juste plus bénéfique qu'une séance, même moins bien faite. Et ça, c'est dur de changer cette mentalité aussi, parce qu'on est formaté dans cette logique que on suit notre plan d'entraînement, on le dit, on a notre plan d'entraînement. Mais ce plan, il faut quand même revenir un peu à l'origine des plans. Les plans, ils sont construits par rapport à des données physiologiques, ils sont construits par rapport à des données hypothétiques et qui sont sur une moyenne. Donc, on est vraiment sur des standards, en fait. Maintenant, comment on adapte ce plan ? Qui construit le plan ? Sur quelle base il a été construit ? Il y a tellement de plans, il y a tellement de choses. Et donc, c'est vraiment ça, cette idée de dire, OK, il y a le plan, mais le plan n'est qu'un élément parmi d'autres. Et maintenant, il va falloir accepter de se dire « oui, il faut s'entraîner » parce que l'entraînement, c'est ce qui induit de la contrainte et c'est cette contrainte qui fait qu'on développe des fonctions. Bien sûr, ça, il y a zéro problème là-dessus. Mais derrière, comment on envisage cette contrainte par rapport à d'autres facteurs qui, eux aussi, peuvent maximiser cette performance ? Donc, il y aurait tout un tas d'éléments dont on pourrait discuter. Et notamment, moi, je pense que l'alimentation est un des piliers fondamentaux d'évolution, de progrès pour les athlètes aujourd'hui. Parce que c'est très difficile d'avoir une alimentation optimale qui corresponde parfaitement à ce dont on a besoin. Voilà, je pense que c'est un des piliers essentiels, quoi.
Mais en plus, c'est extrêmement galère. Et puis, on se rend compte que les athlètes, parce que tous les athlètes que je donne en sport et nutrition, j'ai été très surpris. Hein. Il y a des athlètes pros. Attention, on parle de pros... qui visent les Jeux Olympiques, hein. Quand on leur demande leur alimentation, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des athlètes et des gens qui font du triathlon, qui font de l'ultra, des courses comme ça, font beaucoup plus attention à certains athlètes qui ont des plus gros niveaux. Et alors, je parle de ça, mais je parle même pas du foot ou des sports collectifs ou là encore, c'est une autre démarche, hein. Mais on se rend compte que même des athlètes qui courent très vite, qui ont des très hauts niveaux, ils sont un peu paumés quand même, hein, sur leur truc. Hein. Je pense à un épisode avec Félix Bourg où il dit « Ouais, j'ai une étudiante nutritionniste qui commence à s'occuper, à m'aider un petit peu là-dessus et tout, mais jusqu'à maintenant, je n'en ai pas eu besoin. » Et ça l'empêche pas d'avoir des super temps parce qu'il a tout le reste qui est en place, j'ai envie de dire. Mais on peut se dire, si d'un coup, il se met à vraiment arriver à trouver ce qu'il lui faut pour bien carburer, ça peut vraiment l'aider à gagner beaucoup beaucoup de temps, et pour lui le temps est important parce que c'est ce qui lui permet de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Là on parle pas d'un athlète de l'athlète du dimanche comme moi je me les appelle, là on parle de quelqu'un qui a besoin de lui de faire le temps pour réaliser son rêve d'aller de passer les minima
Tout à fait. Alors après, ça, moi, je trouve que c'est un truc qui me consterne encore aujourd'hui, c'est de me rendre compte que, et c'est pas un exemple, en fait. Là, tu cites Félix Bourg, mais ils sont très nombreux, ces sportifs de haut niveau. Alors, il y a deux grandes catégories, on va dire. J'aime pas faire des catégories, mais malgré tout, il y a deux grandes catégories. Tu as les sportifs qui, voilà, qui n'ont pas trop pris conscience du truc, qui font un peu attention, mais qui, voilà, qui se disent que effectivement, ça serait peut-être mieux, mais bon, voilà. Et puis, tu as les sportifs qui eux font déjà super attention, mais en fait ils font n'importe quoi parce que ben à un moment donné ils n'ont pas eu les bonnes connaissances au bon moment, et non mais ils sont nombreux, hein. C'est-à-dire que tu le vois sur les réseaux, enfin rien, les réseaux malgré tout sont c'est très biaisé, hein, ce que tu vois, mais il y a des sportifs, ou même quand tu entends des interviews et tout, tu as des sportifs qui malheureusement aujourd'hui ne maîtrisent pas suffisamment certaines bases de l'alimentation, et qui voilà. Et donc moi, je suis toujours assez consternée de me dire que, après, c'est des problèmes de moyens et d'autres problèmes politiques, etc. Mais dans les fédérations, on n'a pas encore compris l'intérêt de. Alors, il y a des fédérations qui mettent en place tout un tas de choses, hein. Je ne jette pas la pierre aux fédérations, mais effectivement, je pense qu'on n'a pas encore totalement intégré la valeur de. C'est ce qu'on expliquait. Mais à nouveau, je pense que l'objectif, c'est pas tant de parler du haut niveau, parce que peut-être qu'il faut laisser les structures de haut niveau se charger de tout ça, et qui c'est difficile toujours de porter un avis quand on n'a pas forcément une connaissance parfaite des choses. Mais nous, en tant que sportifs, comme tu dis, du dimanche, eh ben, en fait, il faut qu'on se rende compte que moi, je suis pleinement convaincue aujourd'hui que la charge d'entraînement, c'est 50%, on va dire, de notre performance. Et il y a 50 autres pourcents sur lesquels on peut jouer. Et donc, c'est énorme de se dire que si je dors bien, si je mange bien, si je me repose bien, si j'essaye de comprendre comment mon corps fonctionne, si je gère bien mes émotions et mon stress, et ben en fait, je peux tout autant agir sur ma performance que rien qu'en allant faire ma séance. Et rien que ça, et ben en fait, je trouve que c'est hyper important à envisager, parce que, et après, il y a toujours cette idée de comment je m'éduque, comment je m'éduque à l'alimentation, parce qu'on parlait d'alimentation, donc ça, c'est intéressant, mais. Où aller chercher des données, etc. Bah, la première chose à faire, c'est de s'entourer de personnes compétentes, en fait. Parce que le problème aujourd'hui aussi, c'est que on va se dire, on va aller voir un diététicien. Malheureusement, les diététiciens, ils sont formés sur le mode de fonctionnement standard d'un individu lambda. Quand on est sportif de haut niveau et que, enfin, sportif de haut niveau, quand on est sportif du dimanche, comme tu le dis, mais qu'on se met des grosses charges d'entraînement, on prépare un marathon, un 24 heures, même un 10 km ou un semi, on fait subir à notre corps tout un tas de contraintes. Et donc va rentrer en jeu aussi toute une physiologie de l'effort et de l'exercice que les diététiciens, entre guillemets, lambda, et c'est pas une critique, hein, simplement c'est pas leur cœur de métier. Et donc ce qui est difficile, je crois, aujourd'hui, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer des personnes qui ont ce regard un petit peu vigilant et subtil, on va dire, sur, OK, il y a le fonctionnement normal d'un individu normal, d'un homme avec un grand H, et derrière, il y a ce que l'effort physique va induire en plus. Sur ça. Voilà, on parle pas encore assez peut-être de la préparation mentale, mais c'est un petit peu comme se dire, je connais un sportif de haut niveau qui me dit, bah, moi je vais aller voir un psychologue ou un psychanalyste, je sais plus. Ouais, mais qui te dit que ce psychologue ou ce psychanalyste, il a vraiment une connaissance précise du monde sportif, et surtout du haut niveau? Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que il y a des corps de métier qui sont hyper intéressants. Enfin, moi, je suis archi admirative, hein, des psychologues, des diététiciens, parce que c'est des super métiers, parce qu'ils aident plein de personnes, et c'est super, et on en a tous besoin. Malgré tout, nous, en tant que sportifs, on a cette spécificité de cette charge d'entraînement, de ces contraintes qu'on a dues à notre corps. Et c'est important d'aller voir des gens qui sont spécialisés, et, entre guillemets, soit dans l'alimentation, soit dans la gestion des émotions, etc., et dans le monde sportif. Parce que c'est vraiment complètement différent, et c'est pas du tout la même approche, quoi.
Oui, puis il y a aussi une sorte de compréhension, tu sais, des fois, c'est une discussion qu'on défend là sur les kinés. Je peux qu'on l'a eu entre le kiné qui court et le kiné qui court pas. Quand tu arrives sur sa table et qui va te dire, oh là là, il va peut-être falloir faire une pause. Tu dis oui, mais j'ai un truc là. Et moi, ma kiné, quand je me rappelle quand j'ai fait ma périostite, elle me dit. Elle est rugbyman, tu vois, dans son esprit, et puis elle sait le match, qu'il faut y aller, même si elle est un peu blessée, etc. Elle me dit, on va tout faire pour te remettre, pour voir comment passer. Et puis un autre kiné que j'ai vu l'été dernier m'a dit, peut-être ce serait bien de faire une pause, monsieur. C'est sur le coup. Et alors, je lui ai pas osé dire que je prépare à 24 heures à ce moment-là, mais je me suis dit, tu vois, il y en a une qui avait la vision du sport, mais et là, c'est émotionnel et mental, en fait. Et l'autre qui voit pas, en fait, qui à un moment donné, je dis, bon, bah, moi, écoutez, faites une pause et puis ça va. Il m'a pas dit d'arrêter de bouger totalement. Il m'a dit il faudrait faire ça, etc. Mais je me suis dit quand même, tu vois, quand tu es en pleine préparation, qu'on te dit ça, tu dis, t'as pas d'autre moyen que ça que tu vas faire. Sur le coup, je me suis dit, alors il me connaissait pas beaucoup, mais je pense que ça vient, il y a pas les mêmes approches aussi selon leur connaissance et leur pratique.
Ouais, alors c'est aussi beaucoup leur formation. Moi, je me suis beaucoup interrogée là-dessus parce que au départ, je viens quand même du monde de la formation et j'ai fait de la formation de formateur. Et donc, je me suis pas mal interrogée sur en quoi la formation que l'on reçoit va avoir une incidence sur ce que l'on enseigne. Si je le dis autrement, comment moi en tant que prof, je me structure, est-ce que ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai appris ? C'est un peu ça. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup ça, en fait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est qu'on enseigne ce que l'on a vécu en tant qu'élève ou ce que l'on a appris en tant qu'élève. Et on n'enseigne pas, finalement, ce que l'on veut enseigner parce qu'on s'est forgé cette conception de l'enseignement. Ça, c'est les super bons profs et c'est les élites et ces personnes-là sont très rares. Et tout à l'heure, on parlait des clubs, on parlait des entraîneurs, etc. La plupart du temps, c'est pas une critique, hein, c'est un constat, c'est factuel, la plupart du temps, les entraîneurs ont été athlètes. Et souvent, ils entraînent exactement comme eux, ils ont vécu la course. En fait, ils entraînent comme ils ont été athlètes, comme ils ont eux-mêmes reçu un entraînement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les kinés qu'on peut voir, etc., ont cette approche du sport ou de ce qu'on... Voilà, par rapport à la formation qu'ils ont reçue. Et on sait aujourd'hui que les organismes de formation sont déjà très différents. Alors, surtout là, on touche du doigt la profession de kiné qui est complexe. Aujourd'hui, on a aussi tous débat entre les kinés, les ostéos. Est-ce que t'es kiné, est-ce que t'es ostéo, est-ce que t'es kiné et ostéo. Bon, il y a aussi ce débat-là. On sait qu'on est en sciences humaines. Enfin, alors, même si on est sur des sciences très biologiques, très biomécaniques, on a malgré tout des approches qui sont différentes, d'où moi ma conception avec les approches des modèles théoriques. Moi, je considère que la complexité de l'être humain fait qu'on ne peut pas avoir une seule approche théorique. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, parce que déjà, nous, individuellement, on est complexes. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas la somme de plusieurs fonctions. Et deux, on est tous différents. Il y a des variables inter-individuelles et intra-individuelles. Et donc, s'il n'y avait qu'un modèle théorique, ça se saurait depuis très longtemps, en fait. On appliquerait ce modèle théorique à tout le monde et on dirait c'est la solution pour tout le monde. En sciences humaines, ça ne marche pas comme ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est non seulement très intéressant d'avoir plein de points de vue, mais aussi d'avoir, même si on n'a qu'une seule personne de référence, il faut que cette personne elle ait cette vision très globale, très complémentaire, très, très ouverte à plein de sciences et à plein de modèles théoriques pour dire... là, peut-être que temporairement, il faut que tu t'inscrives dans telle approche, dans tel courant. Mais peut-être qu'à ce moment-là, tu auras besoin de ci, et peut-être qu'à ce moment-là... Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va tester aussi des choses. Je pense qu'on peut essayer de traiter une pathologie avec plein de modèles. Par exemple, c'est pas parce qu'il y a un kiné qui dit que t'es périostique, il faudrait les traiter de cette manière. Et... Alors, sauf si c'est totalement antagoniste, hein, s'il y en a un qui dit de pas courir et l'autre qui dit de courir. Mais il y a peut-être un juste milieu à trouver, justement. Moi je me suis blessée pour ma prépa marathon. Pourtant j'ai une bonne connaissance des phénomènes physiologiques, etc., etc. Il va falloir que je tranche, il va falloir que je choisisse. Qu'est-ce que je fais? J'ai choisi de faire que les séances spécifiques et de faire beaucoup de vélo pour garder un gros volume d'un point de vue cardiovasculaire et même si je sais que j'aurais pas le bénéfice des séances dures, pénibles pour l'intensité musculaire et tous les dommages musculaires que ça engendre de courir longtemps et sur du goudron. Mais c'est un compromis parce que j'essaye d'aller piocher dans plein de modèles et de me dire qu'est-ce qui va être le mieux à un moment donné. Et en fait, c'est ça, je crois, l'idée, c'est de replacer les choses dans un contexte particulier et d'aller investiguer comme un petit chercheur. Hein. C'est vraiment ça l'idée, un enquêteur. Hein. C'est de dire on va mener une enquête sur tous les facteurs qui vont faire que est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là, est-ce qu'on va là, quoi. C'est un peu ça. Hein.
Ouais. Sans oublier le facteur que, comme on le disait, on n'est pas des pros et que y a l'environnement, il y a la famille, il y a les. On avait parlé avec Denis Richer hein, de ce sujet-là qui disait que combien de coureurs d'ultra ou de triathlon finissent dépressifs, divorcés, voient plus leurs enfants et tout. Et moi, j'en connaissais un. Hein. J'ai déjà vu à l'œuvre le phénomène qui est impressionnant hein, quand même, hein, qui vient de cette charge d'entraînement, de cette déconnexion, j'ai envie de dire, à une sorte de réel où en fait, il n'existait plus que son travail et la course. Le reste, on a l'impression que ça n'existait plus. Parce qu'il était focalisé sur faut que je fasse un Ironman, faut que je fasse ça, faut que je fasse un ultra, faut que je fasse ça, alors que l'équilibre Tu disais tout à l'heure l'histoire, on doit avoir des amis, on doit voir ça. J'ai vu un chiffre intéressant. On s'est rendu compte, par exemple, que ceux qui sont en télétravail, quand on leur enlève un peu de temps de travail, ils retrouvent du sommeil parce que ils préfèrent aller voir leurs amis que dormir à un moment donné. Et donc, quand ils ont plus de temps pour aller voir les amis et aussi pour dormir, ils en profitent aussi. Donc, ça veut dire que, comme tu disais, hein, on est dans cet équilibre, on va essayer de chercher l'équilibre entre combien de temps de sport j'ai fait, combien de temps je passe en famille, combien de temps je dois travailler, quel est mon focus sur lequel je vais mettre. Il y a des moments où on va mettre en plus un focus sur un truc que sur un autre. Moi, c'est des sujets qu'on aborde dans l'Amsterdam Running Club très souvent parce que en disant, y a des gens que là, j'ai plus envie de faire ça, là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de profiter de mes enfants, je peux faire différemment. Et c'est ça aussi où la performance, on doit la... Comment on la mesure ? Il faut la mesurer par rapport à soi-même et son soi d'il y a quelque temps. Enfin, comment on la mesure, cette performance, en fait, se dire qu'on est plus performant ?
Ah, pour revenir un peu à la question de la performance, alors c'est intéressant. Hein, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le concept. Je me suis dit, OK, parce que la performance, on en entend tout le temps parler, finalement. On arrive sur une course et on parle de performance et tout, mais au final, c'est quoi ? Quand on fait un peu un état des lieux de ce qu'on appelle nous une revue de littérature en recherche, c'est faire un état des lieux de tout ce qui existe sur le concept. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Et quand il y a, ce sont des définitions très hétérogènes ou même divergentes parfois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est un enseignement qui est intéressant. Ça veut dire que finalement, ce concept, il a été peu investigué parce qu'il reste flou. C'est un concept qui est peu borné. Donc, qui aujourd'hui ne peut pas faire consensus dans le champ scientifique et n'a pas un ancrage solide dans le champ scientifique. Mais voilà, c'est ce que je disais, paradoxalement, tout le monde a que ce mot à la bouche. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on utilise tous un mot qui a une signification différente. Donc, moi, je reviens un peu toujours à cette idée d'étymologie. Je trouve que c'est toujours intéressant de revenir à l'étymologie des mots. Et en fait, la performance, ça vient de performer au XVIIIe siècle, qui voulait dire accomplir. Et donc, j'aime bien cette idée de considérer qu'une performance, c'est un résultat qui est chiffré dans une perspective de classement, soit par rapport à soi, ou soit dans le but d'améliorer ses performances par rapport à soi ou par rapport aux autres. Donc, finalement, moi, cette définition, je la trouve assez intéressante parce que ça veut dire que toi, quand tu dis que tu veux devenir champion de ton monde, tout à fait, tu es dans une logique de performance par rapport à toi, en fait. Et donc, tu cherches à améliorer tes résultats par rapport à toi, dans une logique de comparaison personnelle. Et il y a une autre définition de la performance que j'aime bien, c'est que finalement, on dit que, je crois que c'est Nota en 2007 qui dit que c'est une performance, c'est un constat qui va enregistrer un résultat à un instant T en référence à un contexte, à un objectif, à un résultat attendu et quel que soit le domaine. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'idée du contexte, c'est-à-dire que la performance, elle s'inscrit dans un contexte donné. Tu viens de le dire, hein. Nous, notre contexte, c'est un contexte de vie. C'est un contexte dans lequel on travaille, on a une famille, etc. Mais aussi un contexte, un objectif. C'est-à-dire, en gros, on va se fixer un objectif pour soi. Et si moi, demain, je veux faire 3h15 au marathon, c'est mon objectif. Mais déjà, rien que le fait que je fasse un marathon d'automne ou un marathon de printemps, d'emblée, peut-être que cet objectif, il serait à revoir ou à affiner. Donc, finalement, moi, ma définition de la performance, la définition que j'en donne, c'est être performant, c'est accomplir quelque chose. Donc, c'est matérialiser quelque chose par un résultat qui est plus ou moins quantifiable, malgré tout un peu quantifiable, dans un contexte qui est particulier, qui est celui de notre vie individuelle à chacun, et par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Donc finalement, pour moi, la performance, c'est le fait de pouvoir accomplir quelque chose, sans doute le meilleur résultat qu'on ait jamais accompli, même sûrement le meilleur résultat qu'on ait jamais accompli à un moment donné de notre vie, mais dans un contexte qui est singulier et qui ne pourra jamais se reproduire. Et rien que par rapport à ça aussi, c'est hyper déculpabilisant d'envisager cette conception de la performance, parce qu'on a trop souvent tendance à vouloir comparer. Moi, j'en souffre énormément en ce moment. J'ai fait un marathon dans ma vie et je ne fais que comparer ma préparation ici à celle de mon premier marathon, en me disant « Waouh, mais est-ce que je suis mieux ? Est-ce que je suis moins bien ? Est-ce que je suis mieux ? Est-ce que je suis moins bien ?» Et en fait, c'est déculpabilisant de se dire que de toute façon, les conditions dans lesquelles on va réaliser une performance à un instant A, elles ne seront jamais réunies dans un instant B, quoi qu'on fasse. Parce que déjà, on a 4 ans de plus ou 5 ans de plus, ou il y a eu le Covid ou quoi ou qu'est-ce, et c'est plus la même chose. Et ça, c'est assez important, en fait, de se déculpabiliser vis-à-vis de ça et de se dire qu'une performance, de toute façon, c'est toujours dans un contexte particulier, mais c'est à nous de tirer profit des forces et des faiblesses du contexte. Et ça, c'est un peu la définition de la performance, de la compétence, pardon. Être compétent, c'est la capacité à mobiliser des ressources à bon escient. Ce n'est pas forcément savoir des choses, c'est être capable de dire « Oula, par rapport à telle situation, il vaut mieux que je fasse ci ou que je fasse ça. » Bah, être performant, c'est un peu démontrer une forme de compétence d'adaptation à des contextes variés aussi. Et d'être capable de se dire « Non, aujourd'hui, je ne fais pas la séance. J'ai envie d'aller courir, mais je n'y vais pas parce que si, parce que ça, parce que j'ai mal. Et j'irai demain et ce n'est pas grave. » Et je crois que c'est aussi ça, c'est aussi remettre de l'intelligence, de la lucidité et de la réflexivité dans un truc où on considère... Moi, par exemple, quand on voit « No pain, no gain », bah non, non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que oui, la contrainte est nécessaire. Pourquoi ? Parce que pour qu'un individu se développe, il faut nécessairement que les contraintes qui pèsent sur lui dépassent temporairement son niveau de ressources. C'est une certitude. Donc je ne peux pas progresser si les contraintes qui pèsent sur moi ne sont pas supérieures à mon niveau de ressources. Mais à un moment donné, il y a toujours cette histoire de jusqu'où va la douleur. Hein. Et jusqu'où, de toute façon, c'est jusqu'où on accepte, nous, la douleur. C'est qu'une histoire d'acceptation de la douleur. Hein. Et d'ailleurs, c'est un autre paramètre, c'est qu'il y a des personnes hypersensibles. Et ces personnes, elles vont beaucoup moins accepter d'aller loin dans la douleur que d'autres. Donc quand on parle d'individualisation, il y a des gens, ils ont des difficultés à courir à VMA, rien que parce que c'est pénible. Hein. Parce qu'ils sont hypersensibles et que c'est trop pour eux, c'est trop dur de supporter ces éléments de douleur là. Et tout ça, c'est hyper intéressant à prendre en compte. Donc voilà, la performance, pour moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment cette idée, pour nous, dans ce qu'on pourrait se considérer des sportifs du dimanche, même si on court tous plus que le dimanche, que c'est une logique de comparaison intrinsèque. D'où l'idée de tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, des repères, de l'éducation, d'être devenir de plus en plus autonome sur sa propre manière de s'entraîner, de gérer sa vie, etc. Et c'est nullement, en fait, une logique de comparaison à des repères extérieurs. C'est qu'une poignée de personnes qui peuvent dire « je vais jouer le podium », même si on joue le podium dans une course. Ok, c'est très bien, on joue le podium dans une course, ça c'est parfait. Malgré tout, on sera jamais champion du monde, on sera jamais champion olympique. Et nous, notre but, c'est simplement, à un moment donné, d'accomplir quelque chose qu'on n'a jamais accompli jusque-là. Et c'est aussi d'être en accord avec soi et de se dire « ok, je réunis toutes les conditions qui me permettent d'être aujourd'hui, entre guillemets, une meilleure version de moi » que ce que je n'étais avant. Pour moi, c'est un peu ça, la performance. C'est aussi une évolution dans le temps. C'est aussi accepter l'idée que aujourd'hui, je suis juste meilleur qu'hier. Et c'est cool. Et c'est déjà bien. Et c'est hyper déculpabilisant de le voir comme ça. Je trouve que plutôt que se dire « je veux faire 3h15 au marathon et si je fais pas 3h15, je suis trop nul. » Bah non, parce que c'est trop dur sinon.
Oui, mais tu vois, et alors c'est drôle parce que dans 3 semaines maintenant, 2 semaines et demie, je cours un 10 km sur lequel je me suis inscrit. Je le dis pour ceux qui sont en Auvergne, c'est la course Tâche à Aubière. Et donc forcément, je sors d'un 24 heures. Je sors d'une année où j'ai fait un 496 challenge, donc plutôt 2 challenges ultra dans l'année, donc plutôt en mode escargot, où j'ai perdu beaucoup de VMA l'an dernier et où j'ai pas fait grand chose pour la retrouver parce que je n'avais pas besoin d'aller la retrouver. Et donc, c'est cette histoire de comparaison là, de dire oui, je fais 3h15 à mon marathon, je fais combien de temps je vais faire au prochain, est-ce que je vais faire plus vite, moins vite, commencer mes préparations. Et ben, je suis un peu sur mon 10 km là, parce que je me dis forcément que mon 10 km dans 10 jours, l'autre jour j'ai mis une blague sur Instagram, j'ai dit comment je fais pour retrouver ma pointe de vitesse, et tu m'as dit on peut en parler, mais je sais ce qu'il faut faire, mais sauf que je la retrouverai jamais aussi vite que j'aimerais pour arriver à faire un temps qui se rapprocherait de mon dernier 10 km qui est lointain en plus, et qui est super lointain, et qui a maintenant peut-être 6 ans.
Ouais,
tu
mais
vois,
c'est sûr qu'en 2 semaines et demie, c'est mort. Je te le dis tout de suite.
C'est mort. Et puis, tu sais, j'étais sur une phase de progression à l'époque, tu sais, où je courais, où je progressais beaucoup plus vite. J'étais un peu plus jeune. J'étais dans l'euphorie du jeune coureur un peu couillon. Enfin, attends, quand je dis jeune coureur, c'est pas par l'âge, c'est par la découverte de la course et la progression. C'est-à-dire, la première année, quand on progresse, donc j'étais un peu tout fou et tout, même si je me suis rendu compte qu'après, je me suis bien grillé. Mais c'est sûr que la comparaison, il faut pas que je cherche à me comparer. Mais comment je vais la mesurer, ma performance, en fait, mon petit critère, là, ça va être quoi de dire je suis performant ce jour-là, en fait ?
Là, il y a deux choses. Le problème, c'est qu'en fait, tu veux être meilleur que ton 10 km d'il y a 5 ans, mais sauf que la préparation que tu as mis en place, elle n'est pas cohérente vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si demain, tu nous dis, moi, je veux vraiment performer sur un 10 km et devenir... réaliser ma meilleure perf sur 10 km de toute ma vie, on va mettre en place un plan d'entraînement et tout un tas de conditions autres que le plan d'entraînement qui vont te permettre d'être performant sur 10 km. Là, en l'occurrence, tu as fait ce truc peut-être par envie, par plaisir, par challenge, par plein de motivation. tu vas faire ce 10 km et tu vas le faire avec les armes que tu as. Maintenant, la question, c'est comment en 2 semaines et demie retrouver de la vitesse. C'est un peu ça la question. Tu vas retrouver de la vitesse. En fait, quoi qu'il arrive, quelle que soit la course que l'on fait, il faut quand même toujours envisager le fait que globalement, on fonctionne toujours avec un réservoir et un débit. On va parler dans la, pour vulgariser, hein, dans la filière aérobie, globalement, on a une capacité à tenir longtemps, une capacité à envoyer vite de l'énergie. Sur un 10 km, ben, tu vas devoir réduire un petit, enfin, tu vas devoir augmenter un petit peu et ton débit, donc augmenter ta vitesse de course. Mais au final, ton débit, c'est quoi? C'est ta VMA. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que plus notre VMA elle est élevée, plus on sera performant dans toutes les courses. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Même les mecs qui font l'ultra, l'UTMB, ils ont des VMA incroyables. Hein. Parce qu'en fait, c'est toujours une histoire de pourcentage de VMA. C'est-à-dire que plus ta VMA elle est haute, plus tu vas pouvoir courir à un haut niveau de VMA. Donc là, en l'occurrence, effectivement, sur ton 10 km, bah là, il faudrait que pendant faut pas trop charger, parce qu'après, il faut que ta dernière semaine, tu relâches un peu, mais il faudrait faire des séances à VMA, il faudrait faire des séances au seuil, typiquement, les bonnes séances sur 10 bornes qui peuvent être intéressantes pour toi, c'est des séances au seuil anaérobie lactique, donc c'est des séances, par exemple, 4, 5, 6 fois 1000, à 80-85% de VMA. C'est typiquement les séances qui font très très mal. C'est typiquement les séances de la mort, comme on dit.
Rien que d'y penser, j'ai peur.
Ouais, c'est pas les séances les plus agréables. En fait, c'est vraiment des séances pénibles parce que c'est assez long. On est sur des efforts de, ça dépend des individus, mais de 4 minutes 30, 5 minutes. Répéter plusieurs fois avec peu de récupération. Et en fait, il y a une véritable acidose musculaire et il y a vraiment une véritable fatigue musculaire qui s'instaure. Alors que quand on fait du 30-30, bon, bah, on sait que c'est pas très long et il y a un côté très ludique au 30-30. On est à ce qu'on appelle la PMA, donc la puissance maximale aérobie. Bon, ça, c'est des séances qui peuvent être intéressantes. Après, tu peux jouer sur des fartleks plus ou moins longs. Mais globalement, il faut que tu sois sur de l'intensité, sur des blocs d'intensité et voilà. Après, il y a une autre donnée, c'est qu'effectivement avec l'âge, la vitesse pure a tendance à décroître, mais il faut quand même se dire que ce que nous, enfin surtout je pense sur un profil comme le tien qui a peu couru dans sa jeunesse, t'as un potentiel incroyable de progrès en fait, et donc moi je suis convaincue,
ah, c'est gentil de le dire,
non mais c'est une certitude, c'est-à-dire que voilà, je suis convaincue que t'es capable d'élever ton niveau sur 10 km par l'entraînement que tu vas gagner, par l'expérience que tu as accumulée ces dernières années et tout ce que tu as fait, en fait, que ce soit le 24 heures, ton marathon, etc., bah, ça te donne ce fameux réservoir, cette fameuse grosse capacité à derrière pouvoir exploiter tout ça. On le dit souvent aussi, mais tu cours tous les jours, tu ne te blesses pas, ce n'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, tu as habitué ton corps à courir tous les jours, tu as habitué ton corps à avoir une charge d'entraînement. Et ça, mine de rien, c'est une base énorme pour derrière entamer une préparation spécifique pour un objectif particulier. Moi, je suis convaincue que si demain, tu veux faire une préparation spécifique sur 10 km, bah, toute cette base, tout ce foncier que tu as accumulé, bah, il est précieux, en fait. C'est un peu comme un matelas que tu t'es construit et derrière, tu vas pouvoir avoir un peu plus de flexibilité. Donc, effectivement, la vitesse, c'est quelque chose d'important. On n'obtient pas de la vitesse comme ça. Après, il y a des profils plus ou moins rapides. Moi, j'ai jamais été rapide. Hein. Pourtant, depuis toute petite, on m'a dit respecte. Moi, j'ai fait les écoles d'athlé, j'ai fait les classes, tout cursus classique. Hein. On m'a toujours dit fais de la vitesse pendant que t'as l'âge, mais j'avançais pas. Je vais pas vite. Donc moi, j'étais bonne sur des raids, sur des trucs hyper longs. Après, il y a des gens comme ça qui n'ont pas de vitesse, qui ont moins de vitesse que d'autres. T'as des gens qui sont super rapides. C'est pas par hasard si on a des en athlé, on a plein de disciplines et qu'on a plein de champions avec des typologies de fibres différentes. Et puis, il y a aussi cette histoire-là, c'est qu'en fait, selon le type d'effort qu'on va faire, on va avoir plus de fibres dites lentes ou plus de fibres dites rapides. Je dis bien dites et je dis bien des gros guillemets parce que clairement, on est en train de remettre pas en question totalement ces données, mais on est en train d'investiguer parce que peut-être qu'on a l'impression que des fibres rapides peuvent fonctionner comme des fibres lentes dans certains cas, etc. Donc, il y a des types de fibres différentes. Effectivement, un entraînement de long ou d'ultra long va privilégier un certain type de fibre, majoritairement. Et donc, effectivement, avant de reconstruire plus de fibres rapides, ben, il va falloir faire des séances. Et c'est tout le but de l'entraînement, c'est que le temps est une donnée précieuse et 2 semaines et demie pour sortir ton plus haut niveau de performance, il y a de l'enjeu. Après, peut-être que simplement le simple fait que tu te sois hyper bien entraîné pour le 24 heures, tu as fait un trial là, ça peut donner des atouts. Hein. Voilà, à voir.
Ouais, et puis sur un malentendu, on sait jamais. Non, en plus, après, pour l'histoire, c'est que j'y vais parce que c'est une course caritative qui est dans le cadre du Movember. Donc, c'est pour le cancer, contre les cancers des hommes et tout. Et donc, c'est vrai que c'est une cause qui me tient à cœur. Et d'autant plus que depuis que je suis papa. Et c'est vrai que c'est une course qui, j'avais fait deux éditions. Il y a une où je revenais de blessure. En fait, cette année, mon hésitation, c'était, je me mets sur le 5, je me mets sur le 10. Ouais, le 5, c'est très rapide quand même et tout. Ça va être un peu compliqué. Le 10, c'est un peu plus long. J'aurai le temps de me chauffer. Espèce de justification. Mais tu sais quoi? Ça fait partie des justifications qu'on a. Et dont on va pouvoir reparler très souvent. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, en fait. C'est que, on va bientôt se retrouver, tous les deux.
Eh oui, c'est super cool.
Parce que ce genre de sujet-là, on va les aborder très souvent. Pour pas dire toutes les semaines, parce que on va le dire maintenant, on va creuser ces sujets-là. Alors sur des formats plus courts, mais justement d'aller un peu creuser tous ces sujets-là toutes les semaines pour faire des zooms, hein, des focus, essayer de progresser justement sur tous ces éléments de la performance, pour essayer d'y gratouiller un petit peu, d'aller comprendre un petit peu les choses, et puis pour y amener une donnée scientifique, parce que on a bien compris que moi je suis très sur mon expérience, toi tu es bien plus scientifique que moi, et ça va bien, moi ça me va bien, parce que toi les études tu sais les lire, moi j'aime pas trop les lire, j'aime bien mon expérience, et donc ce qu'on va dire c'est qu'à partir de la semaine prochaine on va essayer, on va se retrouver tous les lundi ou mardi je pense, ça va être la diffusion de l'épisode, pour justement creuser ces sujets là, pour essayer justement de voir quels sont les éléments, alors autour de la performance, autour de nos comportements aussi un petit peu, parce que dans la liste il y a des questions mais dont j'ai hâte qu'on en discute quand même, parce que il y a des termes que des fois on emploie et on se dit mais c'est quoi ce terme là etc, et puis il y a des questions que les gens me posent, hein. Et j'ai vu que t'as mis ça dans la liste. Par exemple, un jour, pourquoi on a des courbatures, tu vois, un truc comme ça. Et ben, un jour, on parlera de ce sujet-là et finalement de se demander si les courbatures, ça fait partie de ces, comment t'as dit, ces marqueurs, un petit peu de connaissance de soi et tout ou pas. Je trouve que ça sera un truc intéressant, tu vois, de se dire.
Oui.
Mais on va pas le dire aujourd'hui.
Non, on va pas le dire aujourd'hui,
On va pas le dire aujourd'hui.
Mais c'est, ça fait partie des sujets hyper intéressants et ça fait surtout partie des sujets dans lesquels on lit tout et n'importe quoi. Mais juste pour compléter ce que tu viens de dire, Bertrand, et merci pour effectivement cette super opportunité qu'on va offrir de pouvoir zoomer sur des sujets. En fait, si on prend la hiérarchie des preuves, parce qu'il existe ce qu'on appelle une hiérarchie des preuves dans le domaine scientifique, c'est qu'en fait le plus haut degré des revues, enfin des données scientifiques, c'est ce qu'on appelle les revues systématiques ou les méta-analyses. En gros, c'est des études qui compilent tout un tas d'études, donc c'est hyper hyper objectif sur le plan. Et ce qui est tout en bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle finalement l'expérience, le point de vue, mais même si c'est un point de vue d'un expert, etc., donc d'une personne. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce que tu viens d'expliquer, c'est que là, on va à nous deux explorer toute cette hiérarchie des preuves, c'est-à-dire qu'on va avoir une complémentarité entre ton expérience qui est nécessaire parce que, et mon expérience aussi en tant que sportive, hein, nos expériences qui sont nécessaires parce qu'on part du terrain, on part de la réalité, pour faire un aller-retour avec des données scientifiques, et notamment on essaiera effectivement toujours de donner le plus haut niveau degré de preuve en allant vers des revues qui sont majoritairement sur des méta-analyses, donc quand c'est possible. Malgré tout, je tiens tout de suite à le dire, c'est qu'en sciences humaines, c'est très compliqué en fait de mettre en place des études parce qu'on ne peut pas enfermer les gens dans des boîtes. On ne peut pas leur dire pendant une semaine, vous rentrez dans cette maison, vous vivez comme ci ou comme ça. C'est pour ça qu'en sciences humaines, on a beaucoup moins d'études fiables, sérieuses, et on a plus d'études dites de corrélation. On va mettre en évidence que tel comportement apparaît majoritairement. Voilà. Malgré tout, c'est très intéressant de pouvoir faire cet aller-retour entre l'expérience, la réalité et la science. Et c'est vraiment tout l'objectif aussi de ce petit clin d'œil du lundi. Et c'est super.
Ouais, et puis justement, on pourra explorer aussi un petit peu ces sensations qu'on peut avoir de dire, par exemple, est-ce que la musique est dopante ou pas? Ça fait partie des sujets que la Fédération française s'était posée, puisqu'elle voulait interdire la musique sur les compétitions officielles, etc. Donc, c'est un sujet qui est pas anodin en soi. Et on peut se rendre compte que, selon les personnes, le rôle de la musique peut avoir un rôle ou pas de rôle. Et en fait, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si y a des choses qui ont été prouvées, quelles sont les analyses qui ont été faites. Et il y a plein de choses, de croyances, de choses qu'on a pour soi, etc., qu'on peut aller explorer. Et c'est ce qu'on va faire Ah, c'est cool. Moi, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte d'explorer tous ces sujets-là.
Moi aussi, vraiment. Je trouve ça génial parce que ça permet voilà, d'informer, de faire passer des connaissances de manière très rapide sur un format très court. Et je crois qu'on a aussi tous besoin de ça dans nos vies, très speed, etc., d'avoir un petit shoot d'informations à un moment donné. Et moi aussi, j'ai vraiment hâte, Bertrand, et je te remercie de pouvoir vivre cette expérience avec toi.
Et on dira, on le fera aussi des rebonds sur certaines notions qu'on aurait pu aborder par des invités sur des épisodes, parce que des fois, on est allé un peu vite ou on pourrait avoir apporté un complément. Et puis aussi, des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que moi, des fois, il y a des questions que j'ai, que je réponds le samedi sur mon expérience. Et puis, je me dis, il y a des questions, tu vois, maintenant que je les ai, je me dis, des fois, je pense que je les remettrai dans la liste des choses qu'on pourra traiter, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes et où on n'aurait pas la même réponse l'un et l'autre, parce qu'on n'a pas la même vision, on aurait des visions complémentaires. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions quand vous aurez compris un peu le principe. Et je remettrai dans les liens des notes de l'épisode, j'ai même le système pour les mettre en audio. Donc si vous voulez poser la question en audio, vous pourrez les poser en audio. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, non ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense que c'est pas mal, hein. Effectivement, les questions, si on voulait également me les poser, peut-être qu'il y aura les notes de mes contacts en bas de page, donc si vous voulez me le poser directement, c'est aussi possible, on fera un inventaire avec Bertrand de voir ce qu'on traite ensemble, ce qui nous intéresse le plus.
Et voilà, alors en attendant, tiens, est-ce qu'on quelqu'un qui veut t'envoyer un message, qui veut discuter avec toi, où est-ce qu'il peut le faire ?
Je pense que je t'ai envoyé toutes mes coordonnées, donc je t'ai donné l'adresse de mon site, j'ai aussi donné mon contact mail, je réponds beaucoup aux mails, je traite très bien les mails, ou alors je peux mettre aussi mon numéro de téléphone, c'est pas un problème.
Non, mais le site, ça va suffire.
Quoi qu'il arrive, voilà, j'ai mon site, même si j'ai pas de boîte de contact et mon mail, c'est vraiment les deux moyens de me contacter le plus rapidement, et je communique très peu sur les réseaux parce que, comme tu le vois, j'utilise plutôt les réseaux comme un moyen d'observer. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été faite là-dessus sur les typologies d'observation, d'utilisation des réseaux. Moi, je suis en mode observation et c'est tout. Je suis très, très peu sur les réseaux. Voilà.
Ouais, comme je disais à mes étudiants, c'est ce qu'on appelle, on rangerait dans la catégorie des lurkeuses. 90% de la population fait ça. Hein. Faut pas de ceux qui regardent beaucoup ce qui se passe et qui est, alors pas qui, que pas que espionner, mais regarder, s'informer, etc. Et je dis qu'en fait, quand on fait partie des gens qui produisent du contenu, on a besoin de ces gens qui regardent aussi, parce que c'est la masse, hein, aussi beaucoup de gens. Et c'est un grand sujet. C'est un très grand sujet, mais qui dépasse beaucoup Kilomètre 42. Mais qui est pour, je pense, pour les scientifiques, pour ceux qui veulent faire des études dans les sciences humaines, etc., est passionnant, parce que on voit des trucs et j'attends, je sais pas si tu le sais ou pas, s'il y en a eu, moi j'attends d'avoir des tests sur Strava, comment les gens ils considèrent Strava, qu'est-ce que ça implique sur leur mental, sur leur comparaison, sur leur niveau de performance, sur tout un tas de trucs qui doit être totalement dingue. Et je suis content parce qu'il y a longtemps, j'avais dit que Strava, je pense, ça perturbait les gens. On m'a dit, oh, tu te prends la tête pour rien, Bertrand. Et j'ai vu il y a pas très longtemps Thomas Lorblanchet, elle l'a mis et elle dit à quel point il mesurait l'impact sur ces jeunes sportifs, les jeunes membres des équipes. Donc, comme quoi, des fois, on se rend compte qu'avec la longue, certains trucs qui sont bien par certains aspects peuvent être aussi problématiques. Et je pense qu'on en mettra un jour sur la liste de ce sujet-là, si ça te dit. En attendant, bien sûr, moi, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. On se retrouve très bientôt. Hein, pour la suite de nos petites aventures, on a fait une liste de sujets, je vous dis rien, hein, ce sera la surprise. Et puis en attendant, qu'est-ce que je peux dire, t'es blessé mais tu t'entraînes quand même, tu nous as dit.
Ouais, je m'entraîne, j'essaye de faire du vélo, mais je vais pas lâcher parce que c'est trop beau un marathon et on lâche pas une prépa marathon. Donc je fais le marathon de Nevers, hein, normalement, si tout va bien, si je peux le faire, hein, à la fin du mois de novembre. Voilà.
Marathon de Nevers, dont je vous rappelle d'ailleurs qu'on avait eu l'organisateur, j'ai perdu son nom, dans un épisode justement l'an dernier où vous avez parlé de comment organiser un marathon comme ça. Et tiens, et en parlant de priorité, d'ailleurs, j'ai vu sur ses réseaux qu'il courait de moins en moins parce qu'il organise de plus en plus de choses, et comme quoi, hein, même des coureurs comme ça. Mais il s'est frotté au marathon de Reims, j'ai vu il y a pas longtemps, tu vois, comme quoi les réseaux, ça sert aussi à savoir tous ces éléments là qui sont vraiment passionnants. Et écoute, je te souhaite quand même une bonne continuation de préparation, hein, on se retrouve d'ici quelques jours pour continuer à discuter de ces sujets-là. Et puis, bien entendu, en attendant, moi, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. On se retrouve donc pour samedi, le conseil. La semaine prochaine, on commence sur nos petits zooms, je ne dis pas le sujet, puis la semaine prochaine, avec de nouveaux invités. Là, je sais à peu près quels sont aussi les autres invités. J'en ai toute une panoplie. Tu vas voir, on va avoir plein de rebonds et tout, ça va être passionnant. Il y a des trucs, c'est magique.
J'ai trop hâte, c'est trop génial.
On va parler de stress, on va parler de reprise du sport, on va parler d'enfants, avec des gens d'ailleurs qui sont chercheurs, hein, comme toi. Voilà, il y aura plein de sujets qui vont être abordés. Le mois de novembre va être riche en apprentissage, je vous garantis. Je pense qu'on va finir l'année beaucoup moins bête qu'on l'a commencé. Ah, en tout cas, c'est mon avis. C'est un peu pour ça que je... Être plus sportif. Et puis, il y a une question que j'ai vue aussi ce week-end, des performances de vieillards galopants. Qui m'ont épaté et je me dis mais comment est-ce qu'ils font pour courir aussi vite encore malgré leurs 70 ans et tout. Et ben ça fait partie aussi des sujets que j'ai envie de creuser et dont on parlera très prochainement. Et ben écoute, sur ce, on va clôturer pour aujourd'hui. Merci beaucoup Laure, c'était passionnant, j'ai vraiment hâte de la suite. Et...
Merci Bertrand, ouais, vraiment merci à toi.
Bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.
Au revoir.